Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Les pays européens renforcent leurs mesures face à l'avancée de la cinquième vague de Covid. Après l'Autriche, l'Allemagne va imposer de nouvelles restrictions. Elle a déjà interdit l'accès aux lieux publics aux personnes non vaccinées. En France, pas de nouvelles mesures coercitives en prévision. Les chiffres du Covid augmente vite, mais le pic des contaminations est attendu pour la fin décembre ou même le début janvier. L'hôpital est déjà sous tension et l'éventualité de réquisitionner le personnel soignant pour les fêtes fait déjà grincer des dents. Un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu mercredi à l'Élysée. Emmanuel Macron, qui par ailleurs a lancé un appel au calme face à la situation explosive en Guadeloupe, l'opposition aux mesures sanitaires a dégénéré en violences urbaines, pillages, barrages, casses se sont multipliées ces derniers jours. Des armes de guerre ont même été dérobées dans la nuit de vendredi à samedi dans les locaux de la douane à Pointe-à-Pitre. Le gouvernement a envoyé des renforts de policiers et de gendarmes du RAID et du GIGN. Le préfet a instauré un couvre-feu entre 18h et 5h jusqu'au 3 novembre. Une réunion de crise se tient en ce moment même par visioconférence à Matignon puisque Jean Castex est à nouveau cas contact. L'incident de trop en Ligue 1, la nouvelle agression contre Dimitri Payet hier soir lors du match OL-OM provoque la colère de la Ligue de football professionnel. Il y a urgence, Lyon sera sanctionné d'un huis clos partiel, total à titre conservatoire. Des points pourraient être retirés aussi au club lyonnais. De son côté, le joueur marseillais que l'on voit ici, Dimitri Payet, très choqué, a décidé de porter plainte. L'auteur présumé du jet de bouteille, âgé de 32 ans, a été placé en garde à vue pour violence avec arme par destination dans une enceinte sportive. A priori, l'individu n'était pas membre d'un groupe de supporters, il n'était pas abonné. La ministre des Sports juge intolérable cette agression sur un terrain. En politique, les propos de Jean-Christophe Lagarde sur Éric Zemmour ne passent pas. Le député UDI estimait hier que si Charles Pasqua était vivant, je cite, il lui aurait tiré une balle dans la tête. Malgré des excuses rapides de la part de M. Lagarde, Éric Ciotti, qui était l'invité hier soir du débat des Républicains sur CNews et sur Europe 1, demande des poursuites judiciaires. Il dénonce une fatwa lancée contre le polémiste de droite. Et puis, autre question soulevée lors de ce débat entre les 5 candidats de la droite républicaine, la question de l'intervention de l'armée dans les quartiers où l'insécurité règne. Est-ce une bonne idée ou est-ce d'abord aux forces de l'ordre qu'il revient d'intervenir? On en débat ce soir avec mes invités. Nous sommes avec le commissaire David Lebars. Bonsoir, commissaire.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Christian Proutot, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien patron du GIGN, spécialiste des questions de sécurité. Bonsoir à vous. François Pipponnet, là, bonsoir.
Bonsoir.
Député apparenté Modem du Val d'Oise. Jean-Claude Dacier, bonsoir. Vous êtes
bonsoir.
Consultant CNews. On va tout de suite faire le point sur la situation explosive, je vous le disais, en Guadeloupe. Une nuit de violence samedi soir. Le calme est revenu à peu près aujourd'hui à la faveur de l'intervention des troupes du GIGN et du RAID. Écoutez tout de suite la mise en garde du président Macron. Il était aujourd'hui en déplacement à Amiens. Il appelle à ne rien céder aux mensonges et à la manipulation.
Je veux remercier les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui ont adhéré progressivement et de plus en plus à la vaccination. Et quand je regarde les chiffres des dernières semaines, il ne faudrait pas qu'une minorité très active fasse mentir ces chiffres. Les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, comme les Martiniquaises, les Martiniquais, les Guyanaises, les Guyanais et l'ensemble de nos ultramarins ont compris que c'était la solution. Notre priorité, c'est de continuer à convaincre que la vaccination est la meilleure protection et ne rien céder aux mensonges, aux détournements d'informations et à la manipulation par certaines et certains de cette situation. Il y a une situation qui est très explosive, qui est liée à un contexte très local, à des tensions qu'on connaît et qui sont historiques, et aussi à certains intérêts qui cherchent un peu à utiliser ce contexte et l'anxiété. Expliquer, convaincre, parce qu'on ne joue pas avec la santé. Et on ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques.
Voilà pour les propos du président Macron. On en débat ce soir dans Punchline, c'est parti.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque la situation en Guadeloupe, un retour au calme précaire pour l'instant après des nuits de violence et d'émeutes urbaines. Tout de suite, on fait le point avec Antoine Désert et on en débat ensuite.
Des bâtiments calcinés, une voiture renversée pour bloquer la circulation, des débris brûlés et entassés sur les bords de route. En Guadeloupe, les stigmates d'un week-end marqué par des tensions et des scènes d'émeutes. Dans cette rue de Pointe-à-Pitre, des boîtes de baskets vides sont étalées partout sur le trottoir, ce magasin de chaussures a été vandalisé et cambriolé. Le gérant, Julien Gage, ne peut que constater les dégâts.
C'est un sentiment de dégoût, c'est un sentiment de nerfs aussi, parce que avec tout ce qu'on a subi cette année, on n'avait pas besoin de ça. Là aujourd'hui, c'est plusieurs personnes qui vont se retrouver au chômage.
Chaque nuit, ils sont plusieurs centaines à piller des commerces et à brûler des voitures, le visage masqué. 38 personnes ont été arrêtées ce week-end. Les violences urbaines s'intensifient depuis quelques jours en Guadeloupe. À l'origine, la contestation du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale des soignants. Cette infirmière refuse de se faire vacciner.
Et je suis là en tant que femme et maman qui se bat pour ses enfants, parce que je ne veux pas que les enfants aient cette vaccination qui est encore expérimentale.
Aujourd'hui, les écoles sont restées fermées sur l'île par mesure de précaution. Même si des renforts du RAID et du GIGN sont arrivés, et si certains barrages commencent à être démontés, la situation reste extrêmement tendue.
Commissaire Le Barthes, est-ce qu'on peut parler d'une situation quasi insurrectionnelle? C'est pour ça que les troupes d'élite ont été envoyées, en tout cas pas pour faire des interventions sur les barrages, mais pour ramener le calme dans l'île?
Il y a des scènes insurrectionnelles, hein. Il ne s'agit pas de fermer les yeux. La priorité, ça a été dit dans votre reportage, c'est effectivement de dégager les barricades, les barrages, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ça met en danger la population, c'est les services de secours qui ne peuvent pas circuler, c'est extrêmement dangereux, c'est très important. Le GIGN et le RAID, c'est important aussi, mais il ne faut pas faire un point de fixation là-dessus. Je pense que l'utilisation de ces deux unités d'élite a plus pour but d'aller chercher les auteurs de crimes graves. Parce que moi, j'ai eu des commissaires de police ce matin en ligne, j'ai fait un point avec eux. Ils m'ont confirmé qu'ils se font tirer dessus avec des armes à feu pendant les manifestations, quand ils font du maintien de l'ordre. Donc quand on en arrive à une situation de maintien de l'ordre, où des gens cachés sur les toits, sur des toits d'immeubles,
des snipers,
sur des terrasses...
Des snipers, ça s'appelle. Hein.
Oui, ben pour le moment, ils n'ont pas fait de victimes, et espérons que ça dure, et j'espère que ça va durer. Mais c'est extrêmement grave, donc il faut absolument identifier ces auteurs-là et aller les chercher. Je pense que ces unités vont pouvoir, avec le matériel adéquat, aller chercher ces personnes-là. Le troisième élément qu'il faut dire, c'est que dans les premiers lots d'interpellation, on a du délinquant chevronné, multi-réitérant. Donc, je ne vais pas faire de comparaison hasardeuse, hein, mais pendant les Gilets jaunes, vous savez, je vous ai souvent dit ici, on avait des gens face à nous qui étaient des primo-manifestants, des primo-délinquants, c'est-à-dire des gens qui étaient des gens bien, des monsieur et madame tout le monde, qui avaient une vraie raison de manifester parce qu'ils étaient en crise, en colère, mais ils ne venaient pas casser ou piller. Là, ce qui se passe en Guadeloupe, ça s'appelle du pillage, des violences urbaines, des exactions gravissimes. Dans votre reportage, on voit qu'est-ce qu'ils ont volé, des chaussures de sport, c'est des produits de première nécessité. Non, il y a des pilleurs, il y a des voyous à l'action. Donc, il ne faut pas mettre tous les Guadeloupéens en tant que, je dirais, cible de notre mécontentement. Ils sont victimes de ces gens-là, et je pense que c'est encore rattrapable, même si c'est très grave, parce qu'il y a une partie infime de la population qui sont les gros délinquants qui s'en prennent à nos forces de l'ordre. Et on va essayer de régler d'abord ce problème-là.
Est-ce que vous pouvez nous confirmer, commissaire, que des armes de guerre ont bien été dérobées dans les locaux de la douane de Pointe-à-Pitre? Ce qui serait extrêmement grave.
J'ai, comme vous, découvert par la presse, hein, cette affaire qui est effectivement extrêmement grave, hein, des armes appartenant aux douaniers dans les locaux de la douane, à la fois des munitions, mais aussi des armes de poing ou des armes longues, ce qui est plus grave encore en termes de capacité d'action. J'ai même lu qu'ils avaient envahi la vedette maritime des douanes dans laquelle ils avaient pris du matériel. Donc voilà, ça montre aussi la détermination et la gravité des actes commis, au-delà du fait que le matériel ou pas était sécurisé. Mais il faut aussi rappeler qu'ils avaient incendié les locaux qui sont extrêmement dangereux et qui font, pour certains, qui commettent des actes extrêmement graves qui peuvent mettre en danger la vie des gens.
Christian Poteau, le rôle à la fois du GIGN, que vous connaissez bien, et du RAID, c'est effectivement d'aller chercher les personnes les plus dangereuses?
Voilà, qui auront été localisés par tout le travail de PJ qui est fait dans l'environnement de
police judiciaire,
police judiciaire, pardon, de la manifestation. Comme le disait le commissaire, il y a des gens qui sont identifiés parce qu'ils ont un casier long comme le bras et qui sont souvent d'ailleurs chaque fois des gens qui profitent de ce genre de situation pour faire leur marché, piller, on l'a vu, des bijouteries ou autres. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que nos forces qui sont sur place n'ont pas l'expérience, même s'il y a des antennes pour les deux unités, n'ont pas l'expérience de gens qui ont décidé de faire de la guérilla, quoi. Parce que tant qu'on ne les aura pas pris, on va leur courir derrière. Et s'ils ont une arme, ils seront prêts à riposter. Et plutôt que d'exposer du personnel qui n'est pas guéri comme ça, autant avoir... Et espérons qu'il n'y aura pas besoin de les utiliser. Mais au moins, on sait que si on a besoin de les utiliser, on les aura sur place. Voilà.
François Pupponi, est-ce qu'il y a un risque que ces images que l'on voit aussi en Guadeloupe puissent, que l'on voit d'une autre façon à Amsterdam, Rotterdam, ces crises, ces manifestations contre le pass sanitaire, les restrictions sanitaires, c'est un prétexte, hein, parce qu'on voit bien que là, bien il s'agit de pillage et de grande délinquance. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que ça fasse tache d'huile ?
Bien sûr, il y a une grève générale demandée en Martinique. La Réunion peut évidemment s'embraser. Après, ça peut être d'autres territoires. Oui, c'est évident. Parce que là, effectivement, il y a l'excuse du pass sanitaire, mais c'est une situation sociale qui est explosive, en Guadeloupe depuis longtemps, avec une vraie délinquance. Hein. Des jeunes qui ont basculé dans le trafic de drogue, la toxicomanie, et qui agressent régulièrement. Il y a le chlordécone, le dossier du chlordécone qui n'a pas été très très bien géré parce que la population était quelque part empoisonnée.
C'était un pesticide qui a été très longtemps utilisé aux Antilles.
Avec l'autorisation de l'administration. Aux États-Unis, ça avait été interdit. Moi, j'étais membre de la commission d'enquête parlementaire sur ce sujet-là. Et effectivement, il y a eu des choses très graves qui se sont passées. Donc tout ça mélangé, à un moment, ça explose. Ça peut être le motif du pass sanitaire, mais tout est prétexte avant pour que ça dérape. Mais là, on est avec des délinquants qui n'ont peur de rien. Enfin, moi, tous les collègues guadeloupéens me disent régulièrement, il y a vraiment de la délinquance qui se développe d'une manière très forte là-bas, et des jeunes qui sont capables d'aller tuer n'importe qui. Enfin, ils sont toxicomanes avec des produits agressifs, violents. Donc oui, c'est inquiétant. L'inquiétude, c'est la Martinique, la Guyane. J'ai du mal à croire que dans d'autres quartiers en métropole, ça se passe comme ça, parce que la situation n'est pas comparable. Mais dans les DOM, ça peut déraper, oui, c'est clair.
Jean-Claude Dacier, il y a eu des barrages qui ont empêché même les gens d'accéder aux hôpitaux. Donc on est dans une situation extrêmement grave.
Le président l'a dit, je crois, une situation explosive. Et le Covid n'a plus grand-chose à y voir. Bon, il est vrai que il y a un problème social ancien et lourd dans ces régions, dans ces pays, dans ces villes. Néanmoins, faut d'abord commencer par le commencement. Et il faut essayer de mettre hors d'état de nuire des délinquants. Je dirais que, bon, qui tire à vue sur la police, pour l'instant, et heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes. En France, on a connu ça aussi. Je dirais une espèce de, comment dire, je ne dirais pas de libération, mais il n'y a plus de limite, quoi. Que ce soit chez nous, dans certains quartiers, ou là-bas, avec des motifs qui, encore une fois, n'ont pas grand-chose à voir avec la situation sanitaire. Donc, il faut d'abord rétablir l'ordre. Ça sera probablement pas facile parce que il y a encore une fois une détermination de la part de ces manifestants qui est. Il faut que les policiers fassent attention quand même. Ce ne sont pas des gamins comme on peut en rencontrer dans nos quartiers. Ce sont des professionnels. Il y a des syndicalistes très politisés. Il y a des indépendantistes. Et il y a effectivement une délinquance très chevronnée et relativement ancienne. Puis il y a un problème social. Ce qui est préoccupant, c'est que la rencontre de ce soir à Matignon avec le Premier ministre, soit dit en passant, qui est donc
cas contact,
hein, donc qui va être isolé devant son ordinateur. Mais ce qui est préoccupant, c'est pas ça. C'est que les manifestants en Guadeloupe ont déjà dit que les élus qui vont ce soir, donc qui discutent depuis 10 minutes avec le Premier ministre, ne sont pas légitimes pour régler les problèmes qui se posent à la Guadeloupe. On est donc dans une situation politique compliquée puisque les élus sont désavoués par les manifestants. Donc je ne sais pas comment le problème va pouvoir se régler. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir d'abord essayer de ramener le calme et puis ensuite discuter avec les élus de manière à essayer d'en sortir. Ça coûtera un peu d'argent, c'est une absolue certitude. Mais le commissaire Le Barthe disait tout à l'heure, ou c'est toi peut-être, il y a des zones de Guadeloupe, dans le sud notamment, où ils ont de l'eau une fois tous les trois jours. Enfin, écoutez, moi je veux bien, mais c'est pas acceptable. Sans parler de problème des prix. Alors, il y a une explosion généralisée.
La vie chère est un
problème endémique. Mais ça va être encore plus cher là-bas. Ça va augmenter chez nous, c'est sûr. Mais ça va être encore plus cher là-bas.
Il y a une loi spécifique qu'on a votée justement pour contrôler les prix dans les DOM.
Donc, il y a effectivement une situation politique, sociale, sanitaire, explosive.
Comment on peut ramener le calme là-bas dans une situation aussi tendue, commissaire Le Barthe ?
Moi, je répondrai pour la partie police.
Hein. Oui,
ils sont tous sur le pont et mobilisés. Il faut impérativement interpeller les auteurs principaux et les meneurs, fauteurs de troubles. Hein. C'est difficile de savoir qui manipule tout ça, même si je rejoins ce qui a été dit. Hein. On sait très bien que là-bas, c'est différent la Guadeloupe, hein, de la Martinique. Enfin, moi, j'y suis allé juste avant la dernière fois, juste avant le premier confinement. Tous les policiers en Guadeloupe savent que c'est plus difficile la Guadeloupe que la Martinique, sur tous les sujets. Tout est plus
Pourquoi
difficile. historiquement, les mentalités, il y a des relents de colonialisme, d'hommes blancs esclavagistes, il y a des corruptions locales qui font que les gens n'ont pas d'eau. Enfin, moi, j'avais découvert ça là-bas, on est en France, l'eau est coupée. Quand j'y étais, c'était un jour sur trois. Hein, donc, ça veut dire que la veille, il faut que vous fassiez vos bidons pour avoir de quoi se laver en famille ou boire, parce que c'est aussi le sujet. Et d'ailleurs, l'eau n'est pas potable partout. Il faut aussi acheter des bouteilles pour les enfants, pour les petits. Enfin, on est en France, il y a des coupures d'électricité. Donc, la voirie est plus dure qu'en Martinique. C'est pour ça que la Martinique est comparable en termes de positionnement géographique, mais ce n'est pas les lourdes difficultés de la Guadeloupe.
La priorité, taux de chômage record.
Il y a des ghettos. Hein,
il y a des ghettos.
Quand on se déplace et qu'on voyage en Guadeloupe, on a des ghettos qui sont ce qu'on peut voir de pire, y compris dans des pays qu'on met parfois comme exemple de ce qu'il y a de pire. Non, en Guadeloupe, il y a des ghettos terribles. Voilà, des bidonvilles, des ghettos. Vous avez quatre murs en terre et du tour en tôle. Donc,
et du trafic de drogue de façon endémique.
Il y a beaucoup de trafic de drogue, il y a beaucoup d'usage de drogue, il y a beaucoup d'usage des armes, il y a une délinquance dure. Voilà, ne l'ignorons pas. Et c'est d'ailleurs face à elle que la police et la gendarmerie aujourd'hui fait face. Donc c'est cela en priorité qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Et d'ailleurs, je pense que la population, dans ce que j'ai entendu, est demandeuse, parce que la population ne peut plus se déplacer, ne peut plus faire ses courses, ne peut pas vivre et craint pour sa sécurité. Quand on arrivera à en mettre une partie de côté, j'espère que la justice pourra suivre, on verra, j'espère, plus clair, parce que si ça prend trop de temps, qu'on n'y parvient pas, il y a un effet contagion qui est extrêmement dangereux à l'issue.
Absolument. Christian Proutot.
Oui, d'ailleurs, on voit au niveau déjà des premières interpellations, il y a des comparutions immédiates là, qui vont arriver.
Il y en a une trentaine ce soir.
En rafale. Et il va falloir continuer à... Parce que dès qu'on en attrape, on arrive à voir, à faire l'environnement, à voir ce qu'il y a à côté. Et c'est important parce que ces groupuscules, ils sont manipulés aussi. Bien sûr, ils viennent faire leur marché. Bien sûr, ils sont des habitués. Dès qu'il y a du... ça commence à bouger le mien. Il y a des manifestations et tout. Ils infiltrent les manifestations qui finissent toujours mal parce que c'est l'occasion d'aller voir si on peut récupérer une paire de chaussures ou autre chose. Donc, et cette partie qui vient d'une jeunesse, qui est une jeunesse sans travail, qui n'est pas du tout encadrée, avec les conditions qu'ont rappelées les uns et les autres, fait que tant qu'on n'aura pas remis de l'ordre, il ne sera pas possible de prendre des décisions et de mettre les choses en place. La première chose à faire, c'est le rétablissement de l'ordre.
Le républicain, si on ne le fait pas, François Pupponi, encore une fois, il y a un vrai risque d'insurrection.
Hein. Ah, c'est évident. D'abord, il peut y avoir un drame. Hein. Il peut y avoir un policier, un gendarme qui se fait tuer cette nuit, hein, avec des gens surarmés. En plus, ils ont récupéré des armes des douanes. C'est quand même un peu surréaliste. Bon, bref, on verra un peu les circonstances, pour pas dire pire. Donc, on verra. Mais il peut y avoir des morts. Bon. Et puis, effectivement, moi, je me rappelle les émeutes de 2005. Ça s'est calmé lorsqu'effectivement, il y avait des interpellations importantes, qu'on mettait de côté un certain nombre de jeunes qui étaient en train de tout casser. Et ça calme les choses. Parce qu'ils ne sont pas très, très nombreux à être capables d'aller tirer, casser, voler. On les connaît. Mais ça nécessite une volonté forte d'interpellation.
Commissaire Lebar, on connaît les gens qui sont les fauteurs de troubles aujourd'hui ou pas? Les policiers, en tout cas.
Dans ceux qui sont actuellement en garde à vue et qui vont être présentés à la justice, on sait déjà, on a une information qui est sûre, c'est qu'ils ont des antécédents qui sont connus des services de police et de justice. Alors, on s'en rend compte une fois qu'on les interpelle, parce que moi, je vois aussi certains qui se permettent de témoigner dans les médias, ils ont visage dissimulé, ils sont très fiers de déclarer qu'ils ont pillé, qu'ils sont là pour mettre le bordel, hein, je reprends leurs mots, j'ai entendu des déclarations insupportables ce matin, bon, c'est la liberté d'expression, mais une fois qu'on les identifie, on voit bien qu'on a affaire, je vous dis, à des délinquants chevronnés. Alors là, on est dans le, trivialement, on est dans le dur, avec la frange dure d'une population extrêmement dur, qui est là pour s'en prendre aux biens, aux personnes, et qui n'a strictement aucun état d'âme. Donc il faut redoubler d'efforts sur ces auteurs-là, parce que je pense vraiment que c'est eux, pour le moment, qui sont extrêmement mobiles dans le chaos, et ça n'est pas encore ce mouvement social sur lequel toute la population s'est mise pour faire barrage, pour manifester, pour casser. C'est encore récupérable. En tout cas, je l'espère, policièrement parlant. J'espère que la justice va être en capacité de suivre, parce qu'il va falloir absorber le flux. On va être encore sur le sujet de la réponse pénale. Enfin, si la justice a des preuves, normalement, je ne doute pas que quand il y a des faits graves, qu'elle sanctionne sévèrement. Mais il y a une question de rapidité pour passer un message rapidement afin que ça ne se propage pas.
On va faire une pause. On se retrouve dans un instant. On va continuer à parler de sécurité, mais cette fois, sécurité dans les stades. À la lumière de cette nouvelle agression contre Dimitri Payet, on va peut-être effectivement revenir sur cette bouteille d'eau qui l'a frappé alors dès le tout début du match au LOM. On en parle dans un instant dans Punchline. À tout de suite.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari sur Europe 1.
On On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline avec Jean-Claude Dassier, avec François Pupponi, député, avec le commissaire Le Barcet et Christian Proutot. Comment stopper la spirale de la violence dans le football? Une nouvelle fois, on se pose la question après ce qui s'est passé hier soir à Lyon lors du match OL-OM. Quatrième minute de jeu. Dimitri Payet va tirer un corner. On a des images amateurs là, de ce qui s'est passé. On le voit s'apprêter, poser le ballon devant lui et une bouteille d'eau le frappe vraiment de façon très violente derrière le crâne. On entend les cris de joie de ceux qui ont jeté la bouteille d'eau, hein, ces abrutis, pardonnez-moi l'expression. On voit le joueur à terre et on entend évidemment les supporters crier. Un homme a été interpellé après le jet de cette bouteille d'eau. A priori, il a été identifié par les caméras de vidéosurveillance du stade. Il a 32 ans, a priori, il n'est pas supporter, il n'est pas encarté comme supporter, il n'est pas abonné. Mais il y a un vrai sujet quand même de sécurité dans les stades. C'est la deuxième fois qu'il est agressé. Pratiquement à chaque match de Ligue, il y a des incidents. Qui va sur le terrain? Qui fait des violences? Le monde du football ne tourne plus rond, Jean-Claude. On va parler des sanctions dans un instant parce qu'il y a une commission de discipline à la Ligue.
Il y est pour quelque chose. Je crois que c'est un peu comme dans la rue, toute proportion gardée. Je crois que les têtes vides, pour ne pas dire abrutis, qui se permettent n'importe quoi, c'est un peu comme ce qui se passe dans certains quartiers difficiles. On en parlait tout à l'heure. Là, heureusement, c'est une bouteille en plastique, mais pleine, ça fait mal quand vous la recevez. Je n'ose imaginer ce qui serait passé s'il y avait été quelque chose en verre. En principe, ça n'entre plus dans les stades.
Ça n'entre pas dans les stades.
Mais les bouteilles non plus, elles sont entrées quand même, parce que la palpation, ça va et ça vient. Quand vous avez des milliers de gens qui arrivent, ça va assez vite. Mais c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pratiquement pas de match, en tout cas pas eu de semaine de Ligue 1 où il n'y a eu des incidents ici ou là, et plus ou moins sérieux, plus ou moins graves. Lyon n'a pas de chance, Marseille non plus, a connu difficultés. Les Anglais,
Qu'ils ont pas de chance.
Qu'est-ce qu'on fait? Si on faisait déjà ce qu'ont fait les Anglais dans les années 90, qui avaient affaire à des hooligans et des groupes de supporters
très violents, PSG, on l'a fait ça.
Bon, je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Le seul pour un supporter qui aime le ballon, alors peut-être que ceux-là, celui qui a lancé la bouteille, peut-être qu'il s'en fout du ballon. C'est possible, c'est peut-être un supporter de hasard. Mais pour les vrais supporters, ils adorent le football quand même. Trop peut-être, mais ils adorent le football. La seule sanction, je ne parle pas de la prison.
C'est le huis clos.
C'est la privatisation de stade. Vous les privez de stade, selon la gravité de la faute.
Ah oui, vous
un week-end, deux week-ends. Et si vraiment c'est un récidiviste qui a fait des choses très graves, là, bah, vous le sortez à vie des stades de football.
Il vient de pointer le jour du stade.
Voilà. Ensuite, il faut bâtir un système. Et puis ensuite, deuxième niveau, j'ai fini. Deuxième niveau d'action possible, il faut faire pression sur les organisations. Celui-ci, apparemment,
il n'en
était
fait pas partie.
Inscrit nulle part. Néanmoins, il y a quelque chose sur lequel les supporters, les organisations de supporters sont très sensibles, c'est l'argent, quand on les aide, ou quand on leur vend des billets pas chers, comme à Marseille. Ça, c'est très sensible pour eux. Si vous leur dites, écoutez, si vous ne tenez pas un discours aux supporters, si vous ne faites pas la police chez vous, en éliminant ceux qui ne se tiennent pas convenablement, eh bien, on va vous priver de ceci, on va vous priver de cela. Okay. C'est la seule façon de tenir les clubs. En attendant, bah, le match d'hier va connaître ses sanctions. Évidemment, Lyon, ce n'est pas une bonne affaire pour M. Aulas, qui a un début de saison difficile, parce qu'il va perdre probablement encore un peu d'argent sur le match à huis clos qui lui a été infligé. Et ce n'est pas fini. La commission de discipline va se réunir.
Ça y est, elle s'est réunie. Alors, vous savez quoi? On va rejoindre Louis Vix, qui va nous expliquer ce qui s'est passé dans cette commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Louis.
Oui Laurence, alors ce n'est pas la première fois malheureusement cette saison que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunit en urgence un lundi. Elle a statué assez vite en mettant ce dossier en instruction, en prononçant les sanctions conservatoires à l'encontre de l'OL, à savoir un huis clos total au Groupama Stadium. Ce n'est pas une surprise, jusqu'au prononcé des sanctions le mercredi 8 décembre. La Ligue qui va juger la responsabilité de l'OL dans cette affaire, qui va également statuer sur le sort du match. Ce qui est certain, c'est qu'on a passé un nouveau cap dans la bêtise avec une soirée ubuesque, totalement lunaire. On espère vraiment que c'est l'affaire de trop. En tout cas, preuve quand même de l'importance du dossier. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, convoque tout le monde place Beauvau demain matin. Roxana Maracineanu, la Ligue de football professionnel, la Fédération française de football et certains présidents des clubs français, avec une réunion de travail extraordinaire pour mettre fin à ces incidents. On espère vraiment enfin une prise de conscience collective et surtout des sanctions à la hauteur de la gravité des incidents survenus hier soir à Lyon.
Merci beaucoup, Louis Vix d'Infosport Plus. David Lebar, c'est une preuve de plus de la montée de la violence, de la bêtise vraiment totale.
Je rejoins ce qu'a dit Jean-Claude Dacier. Quand on écoute attentivement et qu'on regarde la vidéo, elle ressemble de très près à celle qu'on voit sur les réseaux sociaux quand les policiers ou les gendarmes, même si c'est plus rare dans les cités, mais se font agresser, caillasser. C'est le même genre de comportement, c'est la même bêtise en audio. Hein, sauf que là, ce qui est affligeant, c'est que celui qui a lancé la bouteille il y a 32 ans, il est censé être un peu plus mûr que nos gamins habituels dans les quartiers qui sont un peu plus jeunes. Mais ceux qui sont à côté sont aussi stupides. Moi, bon, c'est un avis personnel, mais je pense qu'au pénal, ça ne va pas faire grand-chose, parce qu'au pénal, la bouteille d'eau lancée et l'ITT que va avoir le joueur de foot ne va pas permettre d'imaginer que l'auteur soit incarcéré. En revanche, sportivement parlant, ce qui se passe dans une enceinte de foot peut être mis en parallèle de ce qui se passe dans nos quartiers. Quand on touche à un policier, un gendarme, à un élu, c'est interdiction définitive du stade. Celui-là, ça me paraît être le minimum. Interdiction définitive de stade. Le dispositif qui consiste à les faire pointer, ça existe. Mais si lui, il est interdit définitivement, on règle le problème. Puis après, effectivement, les sanctions sur les clubs quand il y a un problème collectif sur lequel il faut influer. Parce que pénalement parlant, il ne faut pas rêver. C'est pas le jet de bouteille qui va être l'affaire du siècle devant une juridiction correctionnelle.
Non, mais on va rajouter à la liste des policiers, pompiers, médecins. Agresser les arbitres et les joueurs de foot maintenant. Non, mais c'est dingue.
Un arbitre touché dans un match arrêté. Là, il faut dire pareil. Pareil pour les joueurs.
Pareil pour les joueurs.
Des jets de projectiles sur un stade, match arrêté. 3 points perdus pour le club.
François Pupponi.
Si on ne fait pas ça, ça va compter. Parce que depuis le début de saison, alors effectivement, je pense que le Covid, on était content de retrouver des spectateurs dans les stades, et on s'aperçoit qu'il y a une espèce, tout le monde est complètement désinhibé et qui passe à l'acte, enfin partout.
Pas dans le rugby, pas dans le rugby, mais dans le football.
Et donc, effectivement, je pense qu'il faut tout de suite mettre un stop. Et donc, des jets de projectiles dans un stade, match arrêté. Surtout quand quelqu'un est touché. Et ça peut, je l'espère, faire comprendre aux supporters, que, en tout cas aux spectateurs, parce que quand on tire des bouteilles, on n'est pas un supporter, on est un spectateur, et on est un abruti, qu'il ne faut plus le faire. Quoi. Voilà. Parce qu'après, il y a les sanctions pour le club.
Mais c'est tous les matchs, François Pupponi. C'est tous les matchs.
Bien sûr.
C'est des insultes, c'est des agressions, c'est des bagarres, c'est on envahit le terrain. Il y a un truc qui tombe plus rond, quoi.
Je ne suis pas mieux placé pour dire ça, mais il faut que la Ligue de football réexiste quand même. Il faut que la Ligue de football réexiste.
Elle dort un peu, là ?
Elle ne dort pas, elle est inexistante. Il faut qu'elle reprenne la parole et qu'elle prenne aussi des décisions. On doit apparaître comme une autorité qui gère les matchs professionnels.
Hier soir, les communiqués, c'était surréaliste. Hein. La Ligue qui dit « c'est pas moi, c'est le préfet ». Le préfet qui dit « c'est pas moi, c'est la Ligue ».
Enfin,
c'était surréaliste.
Votre avis là-dessus,
Mon avis, c'est que... Je trouve ça désespérant. Désespérant, parce que normalement, le sport est un lieu de communion, même si on a son équipe et tout. Que ça dégénère, on a déjà eu d'autres exemples plus graves, même si celui-là l'est. Il est grave, avec les envahissements de stade. Alors, je vois qu'on vient nous dire à nouveau qu'il va falloir mettre des filets, pourquoi pas mettre les supporters en cage. Ça devient débile. Malheureusement, ça nourrit une pensée que j'ai depuis pas mal de temps. L'imbécilité, c'est la seule chose qui donne une vision réaliste de l'infini. Parce qu'on a l'impression que c'est, quoi qu'on fasse, il y en a toujours un qui se lève. Ils sont élevés en batterie, ces abrutis. C'est pas possible. Et ça, on peut mettre toutes les contraintes sur les grandes équipes, tout, sur les organisateurs.
Mais oui, là, il y aura un huis clos, il y aura des sanctions, on va leur retirer des points, on va tout faire, là.
Gênent pas. On prive ceux qui ont payé leur place d'un match.
Et des familles, des enfants.
Parce que c'est normalement, on voudrait bien pouvoir amener les enfants et que ce soit familial.
On va juste aller voir du côté de Marseille, la colère des Marseillais, parce qu'évidemment, ils n'ont pas du tout apprécié ce qui s'est passé sur leurs joueurs. On voit ça avec leur pareil, on en débat ensuite.
Supporter de l'Olympique de Marseille et président d'un club de football amateur, Omar Kedadouche ne décolère pas. Cet acte violent envers le capitaine des Olympiens salit le football, c'est l'acte de trop.
Moi je qualifierais ça de chasse à l'homme sur un Dimitri Payet, donc jusqu'où ça va aller?
Le jet de bouteille sur la tête, le match interrompu 2 heures avant l'arrêt définitif. Pour l'amoureux du ballon rond, c'est inadmissible, les instances du football professionnel manquent de courage.
À un moment, quand l'intégrité d'un joueur elle est menacée, on arrête. Nous, en football amateur, dès qu'il y a un grillage qui est cassé, on nous fait même pas disputer le match.
Même état d'esprit devant le centre d'entraînement de l'OM. Les supporters présents, certes peu nombreux, réclament des sanctions fermes.
il ne faut pas l'oublier, c'est les clubs receveurs qui sont responsables des équipes adverses, des supporters et ce qui se passe dans l'enceinte du stade. Donc là, ben, je suis désolé, c'est au club qui reçoit, match perdu un ou deux points au moins.
Le 8 décembre, la commission de discipline prendra les décisions définitives concernant la responsabilité de l'Olympique Lyonnais et le sort du match.
Un dernier mot là-dessus, François Péponi.
Non, il faut y arriver, parce que là, on va à la catastrophe. Quoi. On peut pas, on a retrouvé les stades, tout le monde était content, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut mettre à rôle là très très vite. Et effectivement, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, la Ligue est inexistante. Il faut qu'elle soit capable de prendre des décisions rapides et d'adapter une ligne de conduite. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des événements comme ça? C'est dans tous les stades, et pas laisser les arbitres tout seuls le soir, devoir décider tout seul avec le préfet qui leur met la pression. Parce que hier, ce qui s'est passé, le préfet disait à l'arbitre, si vous arrêtez le match, on ne sait pas gérer l'ordre public à l'extérieur. Donc l'arbitre se retrouve tout seul. Ah oui, bien sûr. L'arbitre se retrouve tout seul, donc prendre une décision qui ne le concerne pas, et c'est la Ligue qui doit décider.
Moi, je pense qu'on a vraiment...
Parce que les gens ont payé
leur place, il y a du monde, ça peut déraper très rapidement.
Commissaire Lemars, il y a un vrai risque à la sortie de bagarre, avoir, tout simplement.
Oui. Mais bien sûr, sur une affaire comme ça, en plus, il y a l'excitation maximale des supporters qui vont sentir l'injustice. Bon, je ne veux pas faire de comparaison totalement déplacée, mais le soir du 13 novembre, moi, j'étais sur le terrain. Il s'est passé la même chose, mais pour un fait qui réunit toute la population. Ça y est, la France est attaquée. Il y a des attentats à l'extérieur. La population dans le stade doit être maintenue pour des intérêts de sécurité, justement pour préparer une évacuation. Et c'est jamais gagné de préparer une évacuation en limitant le nombre de portes. Et là, le préfet a un rôle de conseil, de technicien, d'orientation. Il a même conseillé le président de la République. Bon, on sait tout ça avec le recul. Moi, j'ai vu tout ça sur le terrain et le choix heureux. Mais hier soir, c'est vrai qu'il y a eu une cacophonie sur les réseaux sociaux où globalement tout le monde essayait de repasser la patate chaude et de dire que c'était de la faute du préfet qui disait lui-même que c'était pas de sa prérogative, ce que je confirme, c'est pas le préfet qui arrête un match. Donc il faut que tout ça soit clair pour que l'arbitre se sente moins seul et que autour de lui il ait comme un conseil consultatif qui lui permette de décider collectivement. Mais il y en a un qui doit décider.
Et Jean-Michel Aulas, président de Lyon, a joué un rôle compliqué hier soir. Puisqu'il a fait annoncer, on le sait, par l'homme du terrain, le speaker, il a fait annoncer que le match allait reprendre. Donc les Lyonnais sont sortis, ils ont commencé à se réchauffer. Les Marseillais ont dit on ne revient pas dans ce stade en danger. Parce qu'il faut dire aussi, pour être tout à fait complet, qu'il y a eu ce jet de bouteille très spectaculaire. Mais avant, il y avait.
Quatrième minute du match.
Oui, il y avait déjà eu insultes et puis quelques jets de projectiles divers et variés. Donc là, il faut que M. Aulas reprenne la main, et pas la manière dont il l'a fait hier soir, qui n'était pas d'une grande adresse. Alors évidemment, les Marseillais, s'ils pouvaient avoir match gagné, ce ne serait pas une mauvaise nouvelle pour le classement. Il y a tout qui rentre en jeu. Mais encore une fois, la solution, on peut la régler. Encore une fois, à Paris, il y a quelques années, au milieu des années 90, il y avait une situation qui était bien plus grave. Bien plus grave.
Bien sûr.
Le président, aujourd'hui, non, qu'il me pardonne, c'est un de mes amis.
Ouais.
Robin Leproux, il a réglé, il a pris le problème à bras-le-corps et il a réglé le problème. Beaucoup plus grave que ce qu'on a vu hier soir ou ce qu'on a vu dans le passé.
Il faut
simplement s'y mettre, il faut que la Ligue prenne la parole et agisse
sur tout.
J'ai travaillé sur des services d'ordre, je confirme ce que dit Jean-Claude Dassy. On oublie parfois un passé récent, mais il n'y a pas si loin. C'était des émeutes, des bagarres générales terribles. Avant les matchs. Moi, je me suis retrouvé avec des bagarres générales monstrueuses, on ne va pas citer les clubs, mais avec des supporters qui ne pouvaient pas se blairer, comme on dit. Ou à 15h, une fois qu'ils se rencontraient, c'était parti jusqu'à l'ouverture du match, avec des scènes de chaos. Je vous passe la sortie de match où là, ils sortaient tous bourrés, soit joyeux, soit tristes de la défaite, et ça continuait. Donc c'était des services d'ordre terribles. Donc c'est assez amélioré, mais c'est vrai que l'exemple britannique est l'exemple de fermeté absolue. Il n'y a pas de cadeau. Un fait comme ça, c'est disparition.
Oui. Point de vigilance. C'est pas le rugby. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. Faut-il envoyer l'armée dans les quartiers? Ça a été une des grandes thématiques qui a été évoquée lors du débat des Républicains sur Europe 1 et sur CNews. On entendra les candidats et puis je vous poserai la question à tous les deux, Christian Proto du GIGN et commissaire Lebars. Vous nous direz si c'est la bonne solution ou pas. On parlera aussi de Jean-Christophe Lagarde qui lui a estimé que si Charles Pasqua était encore vivant, je le cite, il filerait une balle dans la tête à Éric Zemmour. A tout de suite dans le
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et Et dans Punchline, on se pose cette question, faut-il faire intervenir l'armée dans les quartiers? La question a été posée aux Français, on en a parlé hier lors du débat Les Républicains sur Europe 1 et sur CNews. Plusieurs candidats Les Républicains ont répondu favorablement. 62% des Français, donc, selon notre sondage, sont favorables à l'armée pour rétablir l'ordre, bien sûr, dans les quartiers difficiles. 37% de non. On va écouter les réactions de Derek Ciotti, Valérie Pécresse, Michel Barnier et Xavier Bertrand. Puis je vous passe la parole à vous deux, Christian Proto, ancien gendarme, commissaire Lebars, et puis François Pupponi, pour savoir ce que vous en pensez.
J'ai toujours été responsable des questions de sécurité dans ma famille politique. Oui, je dis, il faut qu'un quoi qu'il en coûte sécuritaire. La police, c'est son rôle, mais aucun moyen ne doit être mis de côté. Et s'il faut des symboles pour garder les halls d'immeubles avec des militaires, eh bien faisons-le, parce que la République, elle est plus importante que les censeurs qui nous interdisent d'agir.
Je veux répondre, moi, sur l'armée. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut faire des brigades coup de poing. Ces brigades coup de poing, c'est des brigades dans lesquelles il y aura de la police, il y aura des douanes. Il faut qu'on mette des cyberpolices parce que c'est sur le dark web que tout ça se passe. Et il faut mettre en appui l'armée. En appui, pourquoi? Avec une doctrine d'emploi très simple. On utilisera le génie s'ils nous mettent des checkpoints et s'ils nous mettent des voitures pour empêcher l'entrée dans les quartiers. Et puis l'armée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut sécuriser la zone pour que les policiers puissent faire leur
même
travail.
Si justement, l'armée, avec l'opération Sentinelle, est déjà là pour participer à la sécurité publique dans les gares et dans les lieux publics. Le thème que vous nous avez proposé, c'est la reconquête républicaine. Moi, je pense qu'il faut agir sur tous les fronts. Une justice qui fonctionne et qui sanctionne avec des moyens nouveaux, non seulement des places de prison, mais des postes de juges et de greffiers, des commissariats qui fonctionnent bien. Sans doute, pour répondre à votre question, dans des cas qu'évoquait Eric, de situations où les quartiers sont hors la loi et hors la République, avoir des unités mobiles dans au moins 40 ou 50 villes disponibles pour maintenir la sécurité.
Non, les forces de sécurité en premier. Elles savent faire.
Donc pas l'armée.
Il leur faut des consignes.
C'est une mauvaise idée?
Je comprends pourquoi 62% des Français nous disent plutôt l'armée. Je comprends pourquoi Éric Ciotti propose cette solution. Moi, je fais confiance aux policiers. Je fais confiance aux gendarmes. La seule chose, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Des instructions claires et une réponse pénale qui soit à la hauteur. Ça s'appelle la riposte républicaine, la riposte de l'État. Quand on tire à coups de mortier contre les policiers, elle est où la riposte républicaine? C'est ça le sujet. Ils savent interpeller, ils savent qui interroger. Mais derrière, s'il n'y a pas cette réponse, cette suite pénale, cette riposte pénale...
Voilà, pour Xavier Bertrand, on a entendu Michel Barnier, Valérie Pécresse, Eric Ciotti. Vous, commissaire Lebars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'armée, elle peut vous prêter main forte pour rétablir l'ordre dans ces quartiers?
Bon, pour moi, mais pas que pour moi, l'armée, c'est fait pour faire la guerre. Donc, soit, politiquement, le président de la République dit « c'est la guerre », et non pas pour le Covid, mais dans les quartiers. Et si c'est le cas, ça veut dire que la situation est encore plus grave que celle qu'on vit. Elle est sérieuse, mais on n'en est sans doute pas à un niveau de guerre. Et dans ces cas-là, il y a un article de la Constitution, hein, je crois que c'est l'article 16, et on envisage l'armée dans les quartiers. Je crois qu'on n'en est pas là. Le deuxième point, c'est quelle armée? J'ai beaucoup d'admiration pour l'armée, j'ai fait mon service militaire. On a beaucoup d'unités d'élite ou de combat, mais qui sont déjà engagées et qui se relaient sur des territoires difficiles. Je ne suis pas certain que l'armée d'aujourd'hui, professionnalisée, dispose de ressources avec des personnels qui puissent faire ce qui est sous-entendu. Parce que ce qu'on sous-entend, en fait, c'est qu'il faut l'armée pour franchir un cap face à la menace. Et troisième point, et ça, on avait eu ce débat-là avec le ministre de l'Intérieur pendant les Gilets jaunes, on avait envisagé collectivement le sujet de l'armée. Et on avait aussi renoncé pour les mêmes raisons. Pourquoi? Parce que si l'armée se fait agresser, et si on la met dans les quartiers, ça arrivera. Ce qu'on a dans les quartiers, on a des abrutis, le terme a été employé, mais certains qui sont plus qu'abrutis sont extrêmement dangereux, ils vont s'en prendre à l'armée, parce qu'ils ont un sentiment d'impunité. Ils vont attaquer à coups de cocktail Molotov, ils vont tirer avec ce qu'ils trouvent. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'armée, si elle doit riposter? Elle a que des armes réelles, des armes de guerre. On va attendre. On va imaginer que des militaires tirent dans nos quartiers. Alors peut-être que ça plaît à certains, mais voilà, moi je pose ce débat comme il doit être posé. Je crois en l'armée comme une aide. Alors moi, j'ai
d'autres débats. Sentinelle, par exemple.
Bien sûr, oui. Sentinelle, Vigipirate. Parce que si on a une menace grave, l'armée sera en mesure de riposter à hauteur de la menace grave. Attention à l'idée, à la fausse bonne idée de l'armée dans les quartiers, en tout cas dans l'état actuel du droit et de la menace. Par contre, en revanche, je pense que l'armée, pour tout ce qui est formation, peut-être un service militaire à recréer, à repenser, tous ces sujets-là peuvent être envisagés. Mais voilà, je pense que la police et la gendarmerie, bien formées avec des bonnes consignes, on les a. Je vais vous prendre un autre exemple qui fait que l'armée, c'est le stade du dessus. On n'a déjà pas le droit de faire des poursuites sur les rodéos en deux roues de peur qu'on ait un jeune qui tombe par terre et que ça fasse un mort. On ne va pas imaginer que l'armée puisse aller tirer à balles réelles parce que ce jeune-là fera du rodéo. Donc, il faut déjà donner des consignes claires. On en a pour la plupart. Il y en a d'autres où il faut un peu plus de courage et peut-être prendre des risques. C'est sûr qu'on est encore sur un sujet de réponse pénale, mais je crois qu'on est très loin d'avoir besoin de nos camarades de l'armée pour venir dans les quartiers.
Christian Poteau, votre avis à vous ?
Ah ben, ça n'a pas de sens. C'est dément d'avoir cette idée parce que, effectivement, comme vient de le rappeler le commissaire Lebars, d'abord, il y a des règles très précises sur l'emploi de la force armée et l'armée, en situation de paix, ça n'existe pas. Sinon, on est en situation d'insurrection, insurrectionnelle. Mais après, il faut passer à l'article 16. Et donc, bon, mais alors. En plus, M. Sotti, alors, il parle de récidiviste, lui, mais lui, c'en est un vrai. Parce que quand il y a eu les attentats du 14 juillet, à Nice, en 2016, il avait déjà hurlé en proposant comme idée magistrale que si on l'avait écouté, on aurait mis des missiles et on aurait tiré aux missiles sur l'armée avec des missiles, et vérifiez ce que je dis. Moi, ça m'a laissé
sur tantôt. Quoi, sur qui
on aurait tiré sur le camion. Avec
D'accord.
un missile.
Okay.
Alors, je trouve que quand on a des idées comme celle-là, pour répondre à un problème qui a été traumatisant pour tout le monde,
D'accord.
réitérer...
Sans parler du 14 juillet, qui est un drame absolu.
Chose. Si, parce que c'est la même idée...
La présence de l'armée dans les halls d'immeubles pour amener le calme, vous, c'est absurde.
Voilà. Absolument
compris.
Absurde.
François Pupponi.
Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas être d'accord avec mes deux camarades. Par expérience, moi j'ai été maire de Sarcelles, et depuis plus de 10 ans, il y a l'armée dans les quartiers à Sarcelles. À cause du dispositif Sentinelle pour sécuriser les lieux de la communauté juive. Bon. Ils sont là, ils sécurisent le territoire, ils tournent tous les jours. Moi, j'aurais mis à disposition des locaux, ils dorment sur place, ils mangent sur place, ils sont là. Ils ont ordre de ne pas intervenir lorsqu'il y a des problèmes de délinquance. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements de mesure, c'est la police qui intervient, sauf en cas vraiment très grave, mais donc ils n'interviennent pas. Mais la présence rassure la population et sécurise. Donc moi, ce que je pense, par expérience, c'est que sur des points de deal, une fois qu'on a fait partir le point de deal, si on veut tenir le point de deal pour éviter que ça revienne, la présence de l'armée peut être utile. Dès lors qu'on n'a pas suffisamment de policiers. Hein. On aurait les 60 000 policiers de plus qu'il nous faut. Je dis pas, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, parce que ce qui se passe, quand on attaque un point de deal, la police fait son travail, le lendemain il est remplacé, on n'a pas suffisamment de policiers pour tenir l'endroit. Et les habitants, les citoyens ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas. Donc là, l'armée, dans ce cas-là, faute d'effectifs suffisants, peut-être... Mais par expérience, nous, on a les militaires depuis plus de 10 ans dans la rue, et je peux dire que ça a une efficacité. Voilà, psychologique...
Mais réelle ou juste psychologique ?
Ils sont là. Ben, quand vous avez des hommes en armes, avec des mitraillettes longues, enfin des armes longues, en permanence, 24 heures sur 24, dans la rue, qui tournent dans la rue...
Mais là, ils sont concernés par le terrorisme éventuel.
Oui, mais ils sont là.
Oui, d'accord.
Non, ça veut dire qu'ils ont sécurisé le quartier. Et ce quartier n'est plus l'objet. Enfin, ouais. Les délinquants ne vont pas venir agresser dans ce quartier alors qu'il y a des militaires. Voilà, je
commissaire Lebars,
l'expérience. Je vais prendre la dernière ville où j'étais le commissaire, Saint-Denis. Il y avait des patrouilles sentinelles près de la basilique, sur certains points de la ville, le Saint-Denis. En revanche, parce que ça n'était ni souhaitable pour les militaires et encore moins en termes de, je dirais, de messages qu'on passait à la population, ne mettez pas ces patrouilles-là qui rentraient dans des cités difficiles comme peuvent l'être les Francs-Moisins ou d'autres, où là, la patrouille militaire serait traitée exactement comme une patrouille policière ou de gendarme. C'est-à-dire que si vous y rentrez en pensant que parce que vous êtes militaire, vous allez faire une petite patrouille à 2 ou 3, vous allez tomber sur les mêmes crétins sur lesquels on tombe nous tous les jours, et on rentre maintenant dans des conditions différentes, équipés, plus nombreux, pour justement faire face à ces hostilités. Ce que je vous dis, c'est que si on fait ça avec les militaires, c'est-à-dire ce que je pense que dans le discours politique, le message subliminal qui est passé, c'est ils prennent aussi des missions à nous pour nous supplanter ou nous aider, ce qui peut partir d'un bon sentiment. Ils seront agressés de la même façon, il n'y aura pas cette distanciation vis-à-vis des militaires, et le problème, c'est que les militaires fonctionnent avec des armes de guerre pour faire la guerre. Ils ne sont pas faits pour gérer des conflits civils.
S'ils reçoivent des tirs de mortier comme c'est le cas pour les forces de police,
s'ils sont visés et que leur intégrité est en jeu en tant que militaires, dans l'état actuel du droit, bien que le droit ne le permette pas de faire des patrouilles comme ça dans un quartier, avec quoi voulez-vous qu'ils ripostent? On a beaucoup critiqué le LBD, les grenades, toutes les armes intermédiaires, mais les militaires n'ont pas ces armes-là. Ils n'ont pas cet équipement intermédiaire.
Et qui serait prêt à assumer un tel coût humain
les candidats qui demandent que l'armée soit dans les quartiers, c'est qu'en sachant très bien qu'en cas d'agression, ils riposteront. Dans ce qui est proposé...
On va avoir un vrai problème juridique après. Enfin, tout ça, c'est pas sérieux. Les militaires, ils sont faits pour faire... Non. tirer sur un ennemi armé en face d'eux, ils ne sont pas faits pour tenir les quartiers.
Mais quand on demande l'armée dans les quartiers, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Mais non, mais c'est parce qu'on ne connaît pas les missions et qu'on pense que ça va résoudre un problème qu'il faut résoudre autrement. Et puis c'est un problème, c'est pas une réponse. C'est une proposition qui est une proposition de circonstances par rapport à un cadre politique de pré-campagne, et ça ne répond pas à une réalité de terrain. Et ça sera impossible. Et je m'attends, déjà ça a été un problème pour le plan Vigipirate, à ce que dira l'armée elle-même, parce que les généraux, je peux vous dire que ils sont déjà allés à reculons pour le plan Vigipirate. La preuve, si on regarde ce qui s'est passé au Bataclan, les ordres n'étaient pas suffisamment précis.
Ils n'ont pas pu donner leurs armes aux policiers, en l'occurrence.
Donc, tout ça, c'est une fausse bonne idée, et surtout, ça trouble l'esprit de tout le monde en imaginant qu'il faudrait l'armée pour rétablir l'ordre en France. Et ça, c'est...
Alors, c'était, à l'époque, c'était Samia Ghali qui avait déjà le sénateur de Marseille, qu'elle demande, l'armée dans les quartiers de Marseille. Pour...
Oui, mais Samia Ghali dit aussi qu'il y a... elle ne connaît rien, la cartographie des commissariats, elle a l'impression qu'ils sont très loin, qu'il n'y a pas de police. Il y a un moment, faut parler de ces sujets-là de façon très rationnelle, parce qu'il y a suffisamment de policiers et de gendarmes en France, je vous le dis souvent, ça peut être choquant, même si on fait toujours mieux avec plus. On est dans le premier tiers européen en nombre de policiers et de gendarmes. La question, c'est l'organisation qu'on a interne, la répartition territoriale et le courage dans les missions. S'il faut avoir du courage, donnons-en à nos policiers avant de s'imaginer que c'est l'armée qui va régler le problème.
Jean-Claude, un dernier mot là-dessus.
Moi j'ai beaucoup aimé le débat parce que je trouve que d'abord il s'est déroulé dans un excellent climat. Il y a eu pas mal d'idées nouvelles, dont celle-ci, qui était une idée un peu recyclée. Monsieur Ciotti, il tient beaucoup.
Service militaire aussi, a demandé Michel Barnier.
Il pense aussi, ça c'est un autre débat. Là on peut en débattre et en réfléchir à la création d'un service national différent. Mais sur l'armée. Moi, j'ai des doutes profonds, je partage le point de vue de nos amis, sur qu'est-ce qui se passe si on met l'armée sur les points sensibles dans un certain nombre de quartiers. Ils seront en effet, comme les policiers, agressés de la même façon avec des armes qui sortent d'on ne sait pas où, mais qui mettent la vie des militaires en jeu, comme celle des policiers. Il se passera quoi ? Ils riposteront. Ou alors on leur demandera de riposter ou de s'abstenir, et on ne voit pas très bien ce qu'ils viendront faire là. Si vous mettez l'armée de manière spectaculaire dans les points sensibles, il faut gagner, hein. Il faut gagner, parce que si en plus vous infligez une situation où l'armée, elle perd plus ou moins une fois sur deux, vous mettez vous entrez dans un autre stade qui est la guérilla urbaine.
Oui.
Je suis pas sûr.
Vous avez raison que c'est pas forcément le scénario.
Je veux bien qu'il y ait à droite sur le plan de la sécurité, l'immigration, mais je pense que l'idée de M. Ciotti est peu opérationnelle.
On va juste écouter Éric Zemmour qui, ce week-end, lui parlait du Karcher, une formule qui, évidemment, remontait à 2007, Nicolas Sarkozy. Écoutez ce qu'il disait sur le fait que lui passerait le Karcher.
Vous savez, moi, si je dis que je passe le Karcher, je le passerai. Ça veut dire que si je fais des promesses et que je les tiendrai, parce que justement, je ne suis pas soucieux de plaire à la gauche, aux médias, aux gens qui font l'opinion. C'est sans doute ma différence avec Nicolas Sarkozy.
C'est quoi le Karcher, François Pupponi ? C'est
nettoyer.
Enlever les délinquants.
On considère que les délinquants, on balaye tout ça, je ne sais pas où vous les mettez, mais on nettoie. Voilà, Les propos de Nicolas Sarkozy à l'époque étaient choquants déjà. Parce que, ce sont des délinquants, c'est sûr, c'est aussi des êtres humains, et donc on ne va pas arrêter, on va nettoyer tout ça au Karcher. D'ailleurs, il ne l'a quasiment pas fait parce que c'est compliqué à faire. Et donc là, Éric Zemmour en remet une couche. Je pense que faut faire attention. On est sur la surenchère sécuritaire. Mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit les termes. Qu'on lutte contre les délinquants, qu'on sanctionne les délinquants, oui. De là à dire qu'on va les nettoyer au Karcher, je pense qu'il y a des termes et des propos qu'il ne faut pas tenir.
Un tout petit mot de Jean-Christophe Lagarde, UDI, qui a cité Charles Pasqua en disant si Charles Pasqua était là, il lui mettrait une balle dans la tête à Éric Zemmour.
Surréaliste. Surréaliste qu'un responsable d'un groupe parlementaire, il est président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, puisse dire d'un potentiel candidat, même d'un individu quel qu'il soit.
Qui sera candidat prochainement, on imagine.
Que quelqu'un d'autre aurait pu lui mettre une balle dans la tête. Enfin, c'est surréaliste. Le débat, s'il est à ce niveau-là, je suis très inquiet pour le déroulement de la campagne électorale.
On va avoir une campagne un peu violente. David Lebars, dans un contexte sécuritaire, encore une fois, extrêmement tendu. On a fait le panorama entre ce qui se passe en Guadeloupe, ce qui se passe à peu près dans tous les pans de la société. Vous voyez un crescendo dans les prochaines semaines ?
Si je le vois pas, je le crains. Et en tant que policier, on est toujours inquiet d'être un peu instrumentalisé par ce débat. Je rappellerai quand même que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur et je commenterai pas ses propos, mais c'était des propos, c'était un échange avec une habitante, alors qu'Éric Zemmour est en campagne.
Voilà,
il était en déplacement sur le terrain, il n'était pas en campagne. Là, aujourd'hui, les candidats qui s'expriment les uns les autres sont plus ou moins tous en campagne. Et nous, on est les forces de l'ordre, on ne veut évidemment pas être instrumentalisés. Et puis, pour ramener les choses à la raison, la police, elle ne nettoie pas, elle interpelle et elle met à disposition de la justice. C'est ça qu'il faut rappeler. Et ça, c'est dans l'intérêt du plus grand nombre. Parfois, on n'y arrive pas, parfois, on échoue. Mais il faut rappeler que la police est là pour interpeller les délinquants et les présenter à la justice.
Et on a vu quelques images de gilets jaunes, parce qu'ils ont manifesté encore samedi. Ça aussi, c'est un risque potentiel ?
Bah, ce qui est triste, c'est que c'est un anniversaire d'une cause qu'on a tous compris. Hein, je vous dis, moi, j'ai vu face à moi, j'ai discuté avec des gens sur des plateaux qui étaient des gens extrêmement sincères et touchants. Et comment s'est fêté cet anniversaire ? Par la violence. Alors évidemment, pas par les gilets jaunes historiques, par la bande d'anarchistes habituels, à commencer par le Black Bloc qui était constitué avec sa banderole. Ils sont venus au contact, ils sont venus essayer de faire de l'image. Le point qui est rassurant, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux, mais ils sont toujours là pour mettre, je dirais, les rues à sac. Et puis, il faut être prudent, encore une fois. Faut pas s'imaginer que ça puisse pas reprendre. On voit dans d'autres pays à quel point les manifestations sont difficiles. On nous a dit, en France, le contexte social, c'est une honte, le débat sur les violences policières. Il suffit de regarder dans quelques pays européens, chez nos voisins, comment se passent les réactions où il y a beaucoup d'antivax et d'antipass, et toute la frange anarchiste qui vient par-dessus tout ça. Attention à ce qu'en France, on n'ait pas à nouveau un regain de manifestations difficiles. On est dans un contexte sensible.
Christian Proto.
Je voudrais juste rappeler que les gouvernements passent et que la police et la gendarmerie continuent à faire leur travail sur le terrain. Et que ce n'est pas les voix de stentor qui annoncent tout et n'importe quoi qui font le boulot. Parce que chaque policier, chaque gendarme a à cœur de remplir sa mission. Et pour ça, il n'y a pas que les ordres, comme on semble le dire. Il y a le fait que c'est inscrit dans l'ADN, il y a le discernement et on sait ce qu'il faut faire.
François Pupponi, en un mot, la campagne risque d'être un peu musclée ?
J'aurais bien peur, un peu comme toutes les campagnes, mais là, sincèrement, les déclarations de Jean-Christophe Lagarde ne sont pas acceptables. C'est pas acceptable. Mais je pense que ça ne va pas être de très très haut niveau, hein, si on continue comme ça.
Attendez, le niveau, il peut y avoir du bon débat, mais après, il peut y avoir de la violence.
J'espère qu'il y aura du bon débat, mais des propos. J'espère. Bon, mais là, voilà, je pense qu'il faut éviter ce genre de phrase. Ça va peut-être servir d'exemple en disant voilà, ne pas polémiquer sur des sujets comme cela.
Absolument. Pas de parole malheureuse comme ça.
Il faut oublier, il a fait comme une. C'est plus qu'une bêtise, c'est quelque chose même qui pourrait lui être reproché en justice. Mais bon, je ne sais plus ce qui se passe dans la tête de ce monsieur. Il n'est plus digne même de faire campagne pour qui que ce soit. Sur la campagne elle-même, on verra. Oui, rapidement, on verra. Je ne suis pas sûr que ce soit une campagne aussi désastreuse qu'on nous l'annonce. Au contraire, les présidents passent, c'est vrai. Le Karcher reste, c'est tant mieux pour eux, sans doute. Mais il y a quand même... Moi, j'ai été quand même très impressionné, je le redis, par le débat d'hier soir. Il y en a eu d'autres. Là, je pense que la campagne trouvera sans doute les arguments, les thèmes pour qu'on ait une campagne dure et surtout utile, digne et utile.
Merci Jean-Claude Dacier, François Pupponi, le commissaire Lebar, c'est Christian Proto. Merci à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve dans un instant à 19h pour Punchline sur Europe 1. Et tout de suite, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, les débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zalani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Retour au calme précaire en Guadeloupe, pourtant il y a de quoi s'inquiéter quand on sait que des émeutiers se sont emparés d'armes de guerre. Nous serons à Pointe-à-Pitre dans un instant.
L'épidémie de Covid flambe dans certains départements comme l'Ardèche par exemple. Plusieurs instances s'appellent à une troisième dose pour tout le monde. L'Allemagne de son côté s'attend à des mesures de plus en plus sévères. Selon François Fillon, les missions de sa femme dans la Sarthe étaient essentielles. L'ex-premier ministre était sur le gris lors de son procès en appel cet après-midi. Et puis une première sanction pour Lyon après le match de foot pathétique d'hier soir contre l'OM. Prochaine rencontre à domicile, sans public et d'autres sanctions viendront en décembre.
Un mot de la tendance météo avec Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Eh bien écoutez, on va surveiller un épisode méditerranéen vers le golfe du Lion. Bon, c'est surtout mercredi que les cumuls de pluie risquent d'être importants. Ailleurs, temps calme demain, souvent ensoleillé, dans une atmosphère rafraîchie. La météo complète, c'est à la fin du journal.
Europe 1.
Que se passe-t-il en Guadeloupe ce soir ? Une réunion sur la situation se tient en ce moment avec plusieurs ministres et des élus guadeloupéens. On va y revenir.
Mais d'abord, direction Pointe-à-Pitre, où la nuit dernière a été un peu plus calme que les précédentes. Mais c'est loin d'être fini, d'autant que certains émeutiers sont armés. Richard Garnier, vous êtes sur place et selon vos informations, des armes ont bien été volées dans les locaux de la douane.
des armes de guerre, des pistolets 9 mm semi-automatiques, Sig Sauer, un fusil à pompe, un pistolet automatique 9 mm, autant d'armes de gros calibre qui ont été dérobées dans le local des douanes et des gardes-côtes. Durant le week-end qui vient de s'écouler, les casseurs semblent-ils bien renseignés sur ce qu'ils allaient trouver dans cet entrepôt, connu pour abriter le matériel des forces de l'ordre maritime et renfermant des scellés placés dans des coffres-forts, s'y étaient introduits. Plus inquiétant, en plus de ces armes de guerre, qui pourraient bien à l'avenir se retourner contre les policiers, plus de 2000 munitions auraient également été dérobées.
Alors il est 5 heures de moins pour vous, Richard. La nuit a été plus calme.
Elle fut bien moins agitée, en effet, que les trois nuits précédentes, sans qu'il n'y ait eu d'opposition armée entre émeutiers et forces de l'ordre. Par contre, des incendies sur des barrages réinstallés ont été constatés, où des odeurs de produits toxiques ont incommodé les riverains. Par ailleurs, 11 interpellations ont été opérées par les policiers, essentiellement de groupuscules étant en repérage. Reste qu'en cette mi-journée de lundi, les barrages provoquent toujours d'importantes perturbations de circulation. Quant à la nuit prochaine, certains redoutent qu'elle ne soit marquée par de nouveaux heurts.
Richard Garnier à Pointe-à-Pitre pour Europe 1 et RCI.
Et pendant ce temps-là, Hélène, à Paris, la réunion de crise sur la situation en Guadeloupe se tient en visioconférence.
Et oui, changement de programme, parce que Jean Castex est cas contact. L'un de ses enfants est positif. Il discute donc derrière son écran avec des élus guadeloupéens, dont Max Mathiassin, député Modem. Pour lui, l'ordre, c'est bien, le dialogue, c'est encore mieux.
Mais moi, ce que je voudrais dire au Premier ministre, c'est que la réponse qui a consisté à envoyer des forces de l'ordre, y compris le RAID et le GIGN, c'est une première réponse, c'est une partie de la réponse, parce qu'évidemment, il faut rétablir l'ordre républicain dans ces territoires, où les gens sont menacés dans leurs biens et leurs personnes, mais également porter d'autres solutions pérennes, faire en sorte que le dialogue puisse se nouer entre les organisations syndicales et les autorités de l'État, et se pencher sur le cas de la jeunesse guadeloupéenne. Si les Guadeloupéens sont rétifs à la vaccination, c'est qu'il y a des causes profondes.
Le député Max Mathiassin, interrogé par Romain Desarbres dans Europe Midi. Ce matin, Emmanuel Macron lançait un appel au calme. Il y a cette réunion en cours en ce moment, sous la houlette de Jean Castex. Le pouvoir prend cette crise très au sérieux, Jacques Soret.
Oui, on atteste cette phrase du chef de l'État. Il y a une situation qui est très explosive, admet Emmanuel Macron. Explosive, le mot est fort, mais justifié aux yeux de l'exécutif, qui semble avoir pris conscience de l'ampleur du mouvement ces derniers jours, alors que depuis le mois de juillet, les manifestations avaient lieu chaque semaine. Sur place, la contestation de l'obligation vaccinale des soignants s'est transformée en malaise social global, comme si la vaccination avait été l'élément déclencheur d'une colère sourde jusqu'à présent. Aujourd'hui, les manifestants réclament également une augmentation généralisée des salaires et la violence s'installe avec des bandes armées. Et si la Guadeloupe est à 7000 km, la crainte désormais dans la Macronie, c'est de voir un tel mouvement arriver en métropole à 5 mois de la présidentielle. Et alors que les questions de sécurité monopolisent le débat, Emmanuel Macron ne veut surtout pas paraître affaibli sur ce point. Désormais, il s'agit pour le président et son premier ministre de circonscrire l'incendie le plus rapidement possible.
Jacques Soret. Puis en Martinique, un appel à la grève générale a été lancé à partir d'aujourd'hui. Conséquence, des poids lourds et des taxis bloquent les accès à la raffinerie et à plusieurs zones commerciales.
Vous l'avez sans doute constaté autour de vous, au travail, à l'école, chez les amis, les cas de Covid sont en très nette hausse.
La ministre du Travail, Elisabeth Borne, appelle les entreprises à se remobiliser sur les gestes barrières. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, s'attend à des semaines pas faciles dans les hôpitaux. Qu'en est-il précisément, selon les derniers chiffres que vous vous êtes procurés, Céline Géraud? Quels sont les départements les plus touchés?
Alors un premier indicateur, d'abord, le taux d'incidence moyen sur l'ensemble du territoire est désormais de 171 cas pour 100 000 habitants, plus 80% en 7 jours. Je rappelle que le seuil d'alerte est fixé à 50. Alors ce soir, un quart des départements affichent un taux d'incidence supérieur à 200 et cela explose dans 5 départements. L'Ardèche, avec un taux record à 358, devant la Haute-Corse, les Landes, les Bouches-du-Rhône et le Haut-Rhin. Mais ces taux d'incidence ne sont pas aussi menaçants qu'au début de l'épidémie. La couverture vaccinale reste un bon bouclier contre les cas graves, les hôpitaux ne sont pas encore saturés et la campagne de rappel pour les plus de 65 ans bat son plein. Ce soir, le Conseil scientifique et le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, les deux instances consultatives créées par le gouvernement, jugent qu'un rappel de vaccin peut s'envisager pour tous les adultes. Vendredi, je le rappelle, la Haute Autorité de Santé avait recommandé d'injecter la dose de rappel dès 40 ans. Enfin, cet après-midi, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé que des créneaux de vaccination seront ouverts à tous à partir de 12 ans pour une dose de rappel dès le 1er décembre.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Autour de nous en Europe, la situation est encore plus préoccupante. Les Autrichiens sont reconfinés jusqu'à la mi-décembre. Et en Allemagne, Angela Merkel s'alarme. Son ministre de la Santé va même encore bien plus loin, Hélène Kohl.
Oui, Jens Spahn reprend à son compte une formule que les spécialistes utilisent depuis plusieurs semaines ici. Compte tenu de l'agressivité du variant Delta, tout le monde sera exposé au virus dans les prochains mois, à ses risques et périls.
Il est probable qu'à la fin de l'hiver, à peu près tout le monde en Allemagne sera, comme on le dit parfois de manière cynique, vacciné, guéri ou bien mort. Mais c'est vraiment le cas.
Et il précise ensuite sa pensée, sauf à faire, je cite, « très, 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 très attention dans toutes les situations de vie. Chacun va croiser la route de Delta. La vraie question est de savoir comment on veut répondre à cette maladie en étant vacciné ou bien en prenant le risque de faire une forme grave et donc peut-être de mourir. La situation est hautement dramatique, selon Angela Merkel. Elle critique les mesures de restriction qui ont été décidées la semaine dernière par les partis de la future nouvelle coalition. » Et qui, de facto, ces mesures ont exclu les personnes non vaccinées de la vie sociale ici. Mais cette quatrième vague a été exactement modélisée, pronostiquée le 8 juillet dernier déjà. Et c'est bien le parti de la chancelière qui a refusé de durcir le ton début octobre. La Bavière, aujourd'hui, évacue ses patients, y compris vers l'étranger, vers l'Italie notamment. Et les projections sont effrayantes. Il pourrait y avoir ici en Allemagne 100 000 morts cet hiver.
Hélène Kohl en direct de Berlin pour Europe 1. Les violences conjugales en hausse de 10% en 2020, chiffre dévoilé aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Près de 160 000 personnes concernées. Dans 9 cas sur 10, ce sont des femmes.
Une pause Hélène et puis on parle des premières sanctions après le dérapage du match Lyon-Marseille. C'est dans un instant dans le journal de 19h. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans le journal de 19h pour la suite des infos. Hélène Zélani avec les suites du fiasco de la rencontre au LOM hier soir à Lyon.
Oui, match de Ligue 1 qui n'a duré que 4 petites minutes. Et pour cause, le joueur de Marseille, Dimitri Payet, a reçu une bouteille dans la tête, ce qui a entraîné, après de longues tergiversations, l'interruption définitive du match. L'heure est aux premières sanctions. Cyril de la Morinerie, la commission de discipline de la Ligue inflige à Lyon un huis clos total.
Oui, Lyon jouera son prochain match à domicile prévu contre Reims le 1er décembre prochain dans un stade vide. Décision prise à titre conservatoire, il faudra attendre le 8 décembre prochain pour connaître les décisions définitives. Ce qui a notamment choqué hier soir, c'est la lenteur de la prise de décision. Il a fallu attendre plus d'une heure et demie avant que l'arbitre annonce l'arrêt définitif du match. La ministre déléguée chargée des sports, Roxana Maracineanu, a appelé sur Europe 1 une modification des règlements.
Il faut laisser les coudées franches et surtout les donner, les coudées franches aux arbitres pour qu'ils puissent décider d'après un texte qui est écrit noir sur blanc et où on connaisse la procédure.
Roxana Maracineanu qui a apporté son soutien à Dimitri Payet, très choqué, le milieu de terrain de l'OM a porté plainte. Le président de la Ligue, Vincent Labrune, est quant à lui sorti de son trop long silence dans l'équipe. Il est urgent, dit-il, de proposer des solutions plutôt que de balancer des petites phrases assassines. Les représentants du football français ont été convoqués pour une réunion demain matin au ministère de l'Intérieur.
Merci Cyril de la Morinerie.
François Fillon à la barre, l'ex-premier ministre était interrogé cet après-midi lors de son procès en appel à Paris.
Oui, première fois qu'il s'est exprimé en longueur dans cette affaire qui porte, vous le savez, sur les soupçons d'emploi fictif de son épouse. Sans surprise, Marion Gauthier, il campe sur ses positions.
Oui, comme en première instance et d'une voix monocorde, l'ancien Premier ministre défend le travail discret de son épouse, lecture du courrier, écoute des administrés, mais surtout représentation dans la circonscription. L'ennui, c'est que c'est ça l'essentiel, lance-t-il. Le salaire, très élevé, relève le président à plusieurs reprises. Mérité, répond le prévenu. Elle était la plus diplômée de mes collaborateurs. François Fillon se tient droit, le regard souvent baissé sur ses notes. Il ne scie pas devant les saillies ironiques du président de la Cour sur les discours qu'aurait corrigé Pénélope, celui-ci s'étonne. On est quand même dans une collaboration à forte tonalité immatérielle. Sur le travail des enfants Fillon embauchés alors que leur père était sénateur, il sourit encore. C'est une généralité chez vous, on laisse très peu de traces. Pas de réaction. François Fillon souligne que l'emploi de proches était monnaie courante à l'époque des faits. Même si on a commis des tas d'erreurs de communication, insiste-t-il, on n'a enfreint aucune règle.
Marion Gauthier au procès en appel de François Fillon. Aux États-Unis, encore beaucoup de questions ce soir autour du drame de Waukesha dans l'état du Wisconsin. Une voiture a heurté la foule réunie pour une parade de Noël. Bilan provisoire, au moins 5 morts, une quarantaine de blessés. La piste terroriste est pour l'instant écartée. Le conducteur pourrait avoir fui une bagarre au couteau.
Au fil de l'eau, les premiers concurrents de la Transat Jacques Vabre s'apprêtent à toucher terre en Martinique.
Et ce qui est étonnant, c'est que les bateaux attendus la nuit prochaine à Fort-de-France ne sont pas les plus rapides et leurs skippers ne sont pas les plus connus, Axel May.
Oui, oui, ce n'est pas l'un de ces géants des mers, vous savez, l'un de ces bateaux de course de tous les records qui va franchir la ligne d'arrivée en tête en baie de Fort-de-France.
Pourquoi ? Parce que ces maxi-trimarans de la classe ultime, tellement rapides quand il y a du vent, qui donnent l'impression de voler sur l'eau, avaient un parcours plus long à effectuer. Ils ont dû descendre bien au-delà de l'équateur avant de remonter vers les Antilles. Et du coup, le premier des classes ultimes, celui de Franck Camas et Charles Caudrelier, est attendu demain dans la journée en Martinique. Il est pour l'instant devancé par trois classes 50. C'est multicoque, deux fois plus petit. Et c'est un duo effectivement peu connu du grand public. Sébastien Rogge et Mathieu Souben qui devraient remporter la Transat dans cette catégorie des 50. Après 15 jours de course, écoutez Sébastien Rogge, joie par radio aujourd'hui.
Dernière journée de course, on va passer la Barbade en milieu d'après-midi. Puis toucher les côtes de Martinique, ça va être à la fois une navigation attentive, on va commencer à rentrer dans du trafic, il va y avoir des sargasses, et aussi de préserver au maximum notre trimaran. Puis nous aussi un peu savourer ces dernières heures en mer avant de remettre pied à terre et de vous retrouver tous.
Alors, arrivée du premier bateau de la Transat Jacques Vabre vers 4h cette nuit en heure locale. Ce sera 23h ce soir, c'est-à-dire en plein couvre-feu sanitaire.
Voilà, merci beaucoup Axel May. On suivra donc cette Transat Jacques Vabre avec vous.
Et on va faire un point météo avec vous Marlène Nuret. Marlène, une journée calme demain, sauf peut-être en Languedoc-Roussillon.
Oui, Laurence, plutôt oui, en fin de journée, en tout cas dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et sur une partie de l'Hérault. Les pluies vont se renforcer au fil des heures pour devenir carrément soutenues en soirée et en première partie de nuit, avec un risque orageux de la neige sur les Pyrénées-Orientales en moyenne montagne. Et la journée de mercredi risque d'être agitée. On parle d'un épisode méditerranéen avec tout ce que cela implique en termes de cumul d'eau. Sur le reste de l'Occitanie et le Sud-Aquitaine, bon, les nuages vont devenir un petit peu plus nombreux avec quelques petites pluies possibles. Un temps variable partagé entre soleil et grisaille pour la Corrèze, l'Auvergne, la région lyonnaise et le Jura. Variable près de la Manche également, avec en plus un petit risque d'averse. Mais dans toutes les autres régions, c'est le soleil qui s'imposera demain. C'est même un joli ciel bleu qui devrait s'afficher dans les régions de la moitié nord, dans une atmosphère rafraîchie par la bise, ce vent de nord-est. Et justement les températures au petit matin, alors là où elles seront les plus fraîches, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté et à la région centre, hein, le thermomètre descendra entre moins 4 et 1 degré. Et puis les maximales en journée, en fait, elles ne bougent pas vraiment. On est 3 degrés en dessous des normes. Elles s'échelonneront entre 5 et 8 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 11 sur les côtes de la Manche. Au sud, comptez 9 à 14, jusqu'à 15, 17 sur les plages méditerranéennes et même 19 à Ajaccio. Donc, je le disais, légèrement en dessous des normes. Rien à voir, par exemple, avec les températures de 2010. Fin novembre à Orléans, par exemple, il faisait moins 16 degrés. Voilà.
Merci beaucoup Marlène Duret pour la météo. Merci Hélène Zélani. On se retrouve demain à 19h pour l'info. Dans un instant, la suite des débats de Punchline. On parlera de la situation en Guadeloupe. Donc Guadeloupe, à tout de suite.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
Et dans les débats de Punchline, on se retrouve ce soir avec Bruno Jeudy. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de Paris Match, Françoise Laborde, journaliste. Bonsoir, bonsoir Françoise, ravie de vous accueillir. Et Louis Hausselter, bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Journaliste à Marianne. On va d'abord parler de la situation en Guadeloupe, situation explosive, comme l'a évidemment évoqué le président de la République. Il y a une réunion en ce moment à Matignon. Jean Castex est en cas contact, elle se fait par visioconférence. Donc malgré tout, il va y avoir des décisions qui seront prises parce qu'il y a eu un certain nombre de scènes de pillage, d'émeutes pendant tout le week-end. Une inquiétude assez forte puisque les locaux de la douane ont été pillés avec des armes de guerre qui ont été volées par les émeutiers. Donc tout ça, évidemment, fait que la situation est compliquée. On écoute juste Emmanuel Macron et on en débat ensuite.
Je remercie les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui ont adhéré progressivement et de plus en plus à la vaccination. Et quand je regarde les chiffres des dernières semaines, il ne faudrait pas qu'une minorité très active fasse mentir ces chiffres. Les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, comme les Martiniquaises, les Martiniquais, les Guyanaises, les Guyanais et l'ensemble de nos ultramarins ont compris que c'était la solution. Notre priorité, c'est de continuer à convaincre que la vaccination est la meilleure protection et ne rien céder aux mensonges, au détournement d'informations et à la manipulation par certaines et certains de cette situation. Il y a une situation qui est très explosive, qui est liée à un contexte très local, à des tensions qu'on connaît et qui sont historiques, et aussi à certains intérêts qui cherchent un peu à utiliser ce contexte et l'anxiété. Expliquer, convaincre, parce qu'on ne joue pas avec la santé. Et on ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener des combats politiques.
Bruno Jeudy, Emmanuel Macron a bien compris l'urgence de la situation. Alors, pour l'instant, il dit qu'elle est circonscrite, mais évidemment, il y a possibilité qu'elle fasse tache d'huile dans métropole.
Oui, il a bien compris, parce qu'en Outre-mer, quand le feu s'allume, c'est très difficile de l'arrêter comme ça du jour au lendemain. Et il a bien compris que, sans doute, il aurait du mal à circonscrire ça à seulement à la seule question sanitaire. C'est-à-dire que rapidement, ça va déborder les grandes crises aux Antilles et plus globalement dans les Outre-mer, comme il dit, c'est le cas aussi parfois à La Réunion. Quand ça démarre, ça devient difficile à enrayer. Donc on voit bien que d'emblée, c'est le Premier ministre qui a été mandaté pour parler aux élus, alors que manifestement, par exemple, le ministre d'Outre-mer n'y va pas tout de suite, parce que ça ne suffirait pas. On voit bien qu'il faut passer tout de suite à un cran beaucoup plus important, pour deux raisons. D'abord, il y a la question des minorités radicalisées, ultra-violentes. Et ça, c'est vrai. La deuxième chose, à mon sens, c'est qu'on n'a pas vu sur les dernières élections locales, régionales, dans les Outre-mer, et que ce sont des élus assez durs qui se sont mis en place dans beaucoup de ces collectivités, notamment le cas en Guadeloupe. Et du coup, les relais sur place du pouvoir sont assez limités et pas forcément importants. Et puis, il y a un contexte d'échec pour le gouvernement en matière de vaccination, parce que même si ça a progressé, ça reste extrêmement bas. Et ça, c'est quand même une forme d'échec qui s'explique par, ce serait long de l'expliquer, mais...
Non, mais il y a un contexte sanitaire lié au chlordécone et au scandale du chlordécone depuis des années. Françoise Laborde.
Oui, je dirais même que je trouve le ton et le propos du président presque... Alors bon, il est dans son rôle, il veut rassurer, mais presque un peu en dessous, quoi, parce que quand il parle de minorité active, on est au-delà de la minorité active, là. On est vraiment dans des situations qui sont... insurrectionnel.
Oui, enfin,
on n'est pas dans le quasi-insurrectionnel, on est dans l'insurrectionnel. Et on voit bien qu'on est déjà au-delà de la question sanitaire. Les quelques témoignages qu'on entend, c'est ma liberté. Donc on voit tout de suite sur quel front on se situe, c'est-à-dire l'opposition à la métropole, l'opposition à Paris, la revendication d'un particularisme ou d'une autonomie ou de je sais pas quoi. Ce qui me frappe en même temps, c'est qu'on n'a pas du tout de revendication indépendantiste dans ce magma. Mais c'est vrai que il y a toujours une tradition, si je puis dire, de la Guadeloupe d'être plus radical dans ses expressions et dans ses revendications. Vous avez évoqué ces drames sanitaires précédents qui justifient en effet qu'aujourd'hui la population soit tellement méfiante à l'égard de tout ce qui peut venir de la métropole. Et puis il y a le risque de contamination, évidemment, à la Martinique, à la Réunion, à tous les territoires d'outre-mer. Et là, c'est sérieux.
Contamination en parlant de Covid, c'est
évidemment.
Très, très bien trouvé. Louis Salter.
En 2009, quand la mèche s'est allumée, justement, le mouvement LKP avait mené des semaines qui s'étaient traduites par des violences, des appels à la grève. Et effectivement, du coup, c'est très difficile de calmer un mouvement qui, en plus, est insaisissable parce que vous avez une crise sanitaire à laquelle s'ajoute une crise sociale latente de fond qui n'a jamais été résolue depuis des années et qui concerne une grande partie de la population et les minorités dont parle Emmanuel Macron qui sont ces bandes de jeunes qui, la nuit, remplacent les manifestants pour aller saccager, ériger des barricades, piller, menacer et parfois, si on en croit le ministre de l'Intérieur, tirer à balles réelles sur les forces de l'ordre. Donc, à partir de là, comment Macron dit convaincre, expliquer. Déjà, en métropole, expliquer dans un contexte de crise sanitaire où toutes les inquiétudes ressortent, où les théories viennent alimenter la défiance. En fait, en Guadeloupe en particulier, et dans les Outre-mer en général, c'est défiance x3 souvent, et pas seulement à cause de l'éloignement géographique. C'est aussi l'histoire qui joue, et on voit très bien qu'en Guadeloupe, le ressenti postcolonial se greffe à toute cette toile de fond de crise. Et quand le gouvernement dit la réponse est sécuritaire, la réponse de court terme, oui, mais la réponse de long terme, elle revient à chaque fois qu'on fait des débats sur la situation en Guadeloupe, dans d'autres territoires d'outre-mer en difficulté, on ne l'a toujours pas pensé.
Et si on élargit un petit peu en dehors des territoires d'outre-mer, on voit qu'en Europe, il y a certains foyers, dans d'autres pays, où il y a des violences contre le pass sanitaire, contre les restrictions sanitaires. On peut imaginer un scénario comme ça. En métropole, Bruno Jeudy, on a vu, encore une fois, Rotterdam, des manifestations, il y en a en Allemagne, tous les pays qui prennent des mesures assez strictes contre leur population ont face à eux des oppositions.
Rien... tout envisager. Et en même temps, le pass sanitaire est une décision difficile qui a été prise cet été. On était encore suffisamment loin de la présidentielle pour que tout ne se mélange pas. Il y a eu des manifestations tout l'été. L'exécutif a été pris de court et même surpris par l'ampleur des manifestations qui se sont finalement éteintes petit à petit, même s'il y a encore des gens qui manifestent chaque samedi, mais maintenant c'est résiduel. Les décisions qui n'ont pas été prises en Allemagne, elles le sont maintenant, parce qu'en Allemagne, il y en était en campagne électorale cet été. Finalement, les mesures difficiles sont prises maintenant. Ils sont moins vaccinés que nous, les Allemands. Les Français, les Espagnols, les Italiens sont plus vaccinés. Ça nous met à l'abri peut-être pour quelques semaines, quelques mois. Mais tout le monde n'est pas vacciné. Et si le Covid rattrape tous ceux qui ne sont pas vaccinés, les hôpitaux seront embolisés. Donc oui, on n'est pas à l'abri de
ça. Non, s'il y a de nouvelles mesures un peu plus dures qui sont prises en France, pour la
simplement, on va se retrouver dans une situation, cette fois-ci, de campagne présidentielle, et ce sera sans doute difficile de prendre ces mesures. Oui, c'est vrai. Ben, la généralisation de la troisième dose, par exemple, on voit bien que même si Emmanuel Macron prépare un peu les esprits à chaque sortie, c'est quand même une décision compliquée et très lourde à prendre dans un climat présidentiel.
Françoise Laborde ?
Oh ben, il est clair que cette troisième dose, à un moment donné, il va falloir en effet faire en sorte de l'imposer. On a vu à chaque fois qu'on essaie de faire ça par tranche d'âge, petit à petit, en expliquant qu'on rajeunit à chaque fois. Mais c'est clair qu'il va falloir prendre des mesures. Moi, je suis assez de l'avis de Bruno. Pour l'instant, on ne voit pas où l'affaire pourrait prendre, sauf un foyer particulier qui pourrait éclater. Alors foyer, là aussi, en parlant d'épidémie, c'est un paradoxe, mais j'allais dire des lieux de crispation d'une région à une autre, basés sur autre chose. On peut avoir un problème en Corse qui peut émerger, mais pas sur la raison sanitaire, parce qu'il y a d'autres difficultés de relations entre la région et le pouvoir central. Donc là, on peut imaginer qu'il y ait à nouveau une crispation. Mais une crispation sanitaire globale de l'ampleur de ce qui se passe en Guadeloupe, franchement, ça ne me semble pas...
Non. Pareil pour vous, Louis.
Comparé aux autres pays, il faut aussi voir qu'en France, le quoi qu'il en coûte est passé par là. C'est-à-dire que l'accompagnement étatique a quand même été globalement plus fort en France que dans beaucoup d'autres pays. Et que donc, des restrictions, quand restrictions il y a, ne mettent pas forcément en danger l'activité économique immédiate. Et donc, la vie, en fait, pour certains, tout ce qu'ils ont, en fait, peut être remis en cause par le Covid si l'État n'est pas là. En France, l'État était là. On se plaint souvent de la lourdeur de l'État. En temps de crise, ça peut quand même servir d'avoir un État pas lourd, mais interventionniste, et qui aide à passer le cap. Et d'ailleurs, les chiffres de la France en termes de reprise économique sont légèrement meilleurs que chez nos voisins, parce que le filet de sécurité était amélioré. Ensuite, si jamais colère il y a contre des mesures de restriction, contre qui elle se dirige ? Contre le gouvernement, l'État, ou contre les non-vaccinés ? Parce qu'il y aura ça aussi, c'est quand même cette fracture dans la population qui se creuse au fur et à mesure entre des gens non-vaccinés et qui ne veulent toujours pas l'être, et des gens qui vont expliquer que, il serait temps d'y aller. Avec cet argument qui limite la portée de ce que je viens de dire, c'est que si le vaccin atténue les formes graves, on a bien vu, et c'est confirmé définitivement maintenant, que malheureusement, il n'empêche ni la contamination, ni le fait de...
On fait une petite pause, on se retrouve tous les trois dans Punchline. On évoquera les Républicains, évidemment, à la lueur du débat d'hier qui les a mis en scène sur CNews et sur Europe 1. Il y avait pas mal de propositions sur le thème de la sécurité, l'armée dans les quartiers, proposition d'Éric Ciotti, et Michel Barnier qui a sorti la carte du service militaire de retour. A tout de suite dans Punchline.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudy, Louis Salter, Françoise Laborde. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées, beaucoup d'idées hier lors du débat Les Républicains sur CNews et sur Europe 1. Louis Salter, alors on va parler du service militaire de Michel Barnier dans un instant, mais il y a eu beaucoup de questions, en tout cas autour de la présence de l'armée dans les quartiers. C'est une proposition d'Éric Ciotti, bon, tous les candidats n'étaient pas d'accord. Fondamentalement, ce n'est pas une idée très nouvelle. Samia Ghali l'a réclamé il y a déjà une bonne dizaine d'années pour Marseille. Qu'est-ce que ça amènerait de plus aujourd'hui, ce type d'intervention ?
Du danger pour les gens qui habitent dans les quartiers. Je mets ça un peu en bloc avec le service militaire, dont on parlera après, parce que je trouve qu'il y a un point commun à ces deux propositions, c'est le fantasme qu'on fait porter sur l'armée. La pauvre, en plus, qui n'en demande pas tant, puisqu'elle demande surtout des crédits pour pouvoir accomplir de difficiles opérations extérieures qui demandent du matériel technique, elle demande des crédits pour la cybersurveillance et tous les enjeux cyber qui font l'armée de demain, peut-être un deuxième porte-avions plus tard, le maintien de la dissuasion nucléaire, enfin, il y a plein de dossiers de défense suffisamment importants, cruciaux et techniques pour qu'on ne fantasme pas des missions régaliennes qu'on ferait porter à l'armée. Et sur la proposition de l'armée dans les banlieues, le problème, c'est que l'armée, c'est très spécifique. C'est un déploiement de militaires en territoire ennemi pour porter des armes de guerre et faire la guerre. Et si vous demandez aussi bien à des militaires qu'à des spécialistes du maintien de l'ordre civil, ils vont vous répondre que ce n'est pas le même métier en réalité. C'est juste que ce n'est pas le même métier. OK, on peut tirer sur des gens, mais ce n'est pas de la même façon. On ne tire pas les mêmes balles.
Alors, Bruno, je ne sais pas s'il faut
tuer. Ce n'est pas la même chose.
Je ne suis pas compétent pour savoir s'il faut les envoyer en banlieue ou pas. Mais ils sont quand même déjà déployés sur le territoire national dans le cadre des opérations de Vigipirate, plus. Oui, ils sont déjà déployés. Ça existe déjà. Donc peut-être que ça pourrait.
Ils
pourraient
faire ça, par exemple.
Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de dire s'il faut les déployer dans les banlieues ou pas, mais ça existe déjà. L'armée, depuis d'ailleurs la fin du service national, on l'utilise aussi à des fins de sécurité intérieure.
Et à des fins de maintien de l'ordre, en effet, sur le
territoire. Et à des fins de maintien de l'ordre, ça existe déjà. Donc l'idée...
La sécurisation, mais pas du maintien.
On peut réfléchir à cette proposition qui me paraît, en tous les cas, on peut la mettre sur la table, y réfléchir, pourquoi
pas.
Elle
n'est pas absurde, donc,
pour vous. Elle n'est pas absurde. En revanche, rétablir...
Le service militaire. Alors attendez, on y est dans un instant. Juste Françoise Laborde sur l'armée dans les quartiers.
Oui, et puis je pense qu'il y a aussi évidemment la question qui est sous-jacente, même si elle n'est pas directement dite, c'est la présence française sur d'autres terrains, notamment au Mali, où on a le sentiment d'un ensablement, pour le coup, de l'armée française avec des résultats qui sont pour le moins divers. Disons, puisqu'on ne peut pas dire qu'on ait ramené la paix ni le calme dans la région.
Et pourtant, on a laissé la vie de nombreux soldats.
Et on a laissé la vie de nombreux soldats. Donc, il y a dans cette idée, me semble-t-il, quelque chose qui peut en effet séduire l'opinion, qui consisterait à dire, dans une sorte de sous-texte, voyez, plutôt que de mettre nos braves soldats au feu au Mali où ils risquent leur peau, peut-être qu'ils seraient mieux sur le terrain en France ou dans certains coins, où en effet, ils pourraient... Ça me semble quand même moins périlleux que, même si les banlieues sont compliquées, ça me semble quand même moins périlleux et physiquement moins éprouvant que d'être stationné au Mali. Donc je pense qu'il y a là sans doute un élément qui peut en effet séduire une partie de l'opinion, et c'est sans doute aussi pour ça, évidemment, que ce sujet existe. Et puis c'est vrai qu'il y a un niveau de violence quand même dont la population a marre, et qu'on a en face des forces de police qui aujourd'hui sont un peu au bout du rouleau. Donc ça répond, me semble-t-il, en effet, à une de l'opinion.
Alors, autre idée évoquée hier alors par Michel Barnier, presque à la fin de l'émission, l'idée de rétablir un service national. Écoutez Michel Barnier.
Je pense que ce ressort, ce moteur de l'intégration républicaine nous manque aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux vous dire que mon intention est, élu président de la République, d'ouvrir un débat avec la majorité et l'opposition aussi au Parlement. Et si ce débat conclut à l'utilité de rétablir le service militaire et
vous
de sécurité, je le proposerai aux Français durant le quinquennat à travers un référendum.
Voilà
un service qui sera ouvert à l'armée, à la sécurité, aux sapeurs-pompiers, à la protection civile.
Alors, Bruno Jeudy, c'est une proposition qu'il met sur la table et qui pèse combien en termes de milliards ?
Alors, quand je l'ai entendu hier soir, j'avoue que j'ai immédiatement cherché à vérifier combien ça coûtait, parce qu'en fait, j'ai cherché. Il faut savoir que cette proposition, elle est régulièrement faite pendant toutes les campagnes présidentielles depuis que le service national a été suspendu par Jacques Chirac, sur proposition à l'époque. C'est pas lui qui était ministre de la Défense, mais le premier qui avait réfléchi à ça, c'est François Fillon. Ça coûte entre 4 et 5 milliards d'euros annuels de rétablir le service national. Une génération de Français, c'est 800 000 jeunes. Ça, c'est le tarif. Évidemment, si jamais il était rétabli, je ne pense pas qu'on pourrait le rétablir pour tout le monde en une année. Enfin, c'est très compliqué techniquement. La première question qui se pose, c'est est-ce que l'armée en a vraiment besoin ? Je ne suis pas certain. Deuxième...
Non, c'est plutôt la France qui en a besoin.
Non, mais l'armée aujourd'hui, l'armée n'en veut pas.
Elle n'a pas les moyens, de toute façon.
Elle n'a pas les moyens.
Il y a bien 800 000.
Tout a été réduit.
Il n'y a pas les locaux, il n'y a pas les encadrants.
Deuxième chose, il y a le coût. Alors, sa directrice de cabinet, Marie Carrère-Gé, on s'est répondu par Twitter interposé hier soir, on a dit, mais vous ne prenez pas en compte ce que ça permettrait de faire comme économie en termes de parce que les jeunes, pour certains, ne sombreraient plus forcément dans des situations difficiles, et donc, effectivement, il y aurait peut-être une économie pour la nation à faire, à occuper ou à former des jeunes pendant une année à des métiers divers comme le faisait l'armée. Moi, je crois que c'est le principe de la fausse bonne idée, quoi. C'est-à-dire, on se dit, on va régler tous les problèmes d'intégration. Moi, je suis très dubitatif sur une idée, à mon avis, qui est...
Ça ne permettrait pas de refaire nation ?
Peut-être, mais bon, quand c'était même un peu l'idée qu'a essayé de développer Emmanuel Macron avec son, son SMA qui est resté embryonnaire.
15 000 SNU.
Sans doute une arnaque par rapport au fait que ça devait monter, en puissance pendant le mandat.
C'est très bien. Hein.
Ça n'a pas monté en puissance pendant le mandat. C'est vrai. Ça ne marche qu'en Outre-mer, d'ailleurs, de ce point de vue, le service national universel. Peut-être qu'il faut réfléchir à le développer, à le faire monter en puissance autrement que par la parlotte, peut-être.
On s'aborde.
Non, mais c'est vrai qu'en Chirac supprimer le service militaire, on a quand même tous été un peu saisis. Hein. Il a annoncé ça le 14 juillet, on avait même si on en parlait avant, la mesure a quand même pris un peu de cours tout le monde. Et c'est vrai que depuis, toutes les structures d'accueil, en tout cas des appelés, ont été démantelées. Donc déjà, il faudrait recréer toutes les structures d'accueil, etc.
C'est un des derniers pays à le faire. Hein.
Oui. Mais en même temps, le service militaire avait ce site positif qui permettait de mesurer le niveau scolaire des uns et des autres, le taux d'alphabétisation, l'intégration, l'idée d'avoir d'autres métiers, la formation, passer son permis de conduire, des choses qui devraient aller de soi mais qui vont plus de soi dans ce pays. Donc voilà, est-ce que ça vaut en effet le chiffre qui est annoncé, plus en effet les infrastructures qu'il faut refaire, 5 milliards plus. Je sais pas. C'est compliqué parce que c'est un pari quand même très très cher et très long. Et puis peut-être qu'il faudrait aussi demander l'avis l'avis indirectement de la jeune classe. Je suis pas sûre aujourd'hui.
Ah ben je vous donne la réponse.
Qu'on puisse dire à des jeunes gens et des jeunes filles, bonjour, vous avez 18 ans.
Vous allez donner un an de votre vie à l'armée française.
Ça va être formidable. Vous aurez un joli uniforme ou pas. Et vous allez passer un peu de temps à marcher dans les bois ou pas. Et à faire des exercices et à vivre ensemble.
Valérie Pécresse, Louis Hausselter, avait proposé, elle, un service militaire volontaire. C'est-à-dire, OK pour le principe du service, mais pour ceux qui le veulent bien. On ne leur impose pas à toute une classe d'âge. Quoi.
Non, je pense que, effectivement, on pourrait se demander son avis aux jeunes concernés, mais aussi d'abord à l'armée, qui, en fait, ne veut plus le faire, parce que l'armée a embrassé la transition voulue par Jacques Chirac, qui était de passer d'une armée concrète à une armée professionnelle. Et ce qui était souhaitable pour elle, parce que les tâches militaires sont de plus en plus pointues et professionnelles. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'expliquais que mettre un militaire avec un FAMAS et plus des FAMAS dans un quartier, en fait, c'est un métier. Donc, ce que l'armée fait au Mali, c'est du travail de précision, avec plus ou moins de succès. Mais militaire, c'est un métier, et c'est un métier de plus en plus pointu. Donc, on ne peut pas en faire n'importe quoi, et on ne peut pas demander n'importe quoi à l'armée. Cette transition étant faite, et l'armée s'en étant tout à fait accommodée, je trouve que ce n'est pas une question de budget, de à qui on demande ça. En revanche, qu'il faille un creuset, notamment pour rattraper les jeunes qui ont flanché, ceux qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'emploi, qui sont désœuvrés, qui peuvent flancher assez vite vers la délinquance, la radicalisation ou rester chez eux à ne rien faire. C'est à ça quand même que servait le service militaire. Un jeune, il passait son permis, il avait une certaine discipline qui était imposée, il était en
chambre libre.
C'est pas tant pour le côté on va faire nation, parce que bon, je trouve aussi qu'on fantasme un peu l'idée du service militaire où toutes les classes se rencontraient. On sait très bien que le sort au service militaire n'est réservé à quelqu'un qui était étudiant en grande école et pas exactement le même que quelqu'un qui n'avait pas le bac. Mais pour autant, imposer une discipline commune et rattraper des jeunes qui sinon vont flancher, leur donner une deuxième chance, quelque part, mais ça peut servir à ça. Et c'était l'idée du SNU, Service National Universel, qui n'a rien d'universel, parce qu'effectivement, là, c'est un échec. La promesse n'a pas du tout été tenue pour la généralisation.
On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Je vous passe la parole, François Delaborde. On continuera à parler des Républicains un instant, notamment les propositions qui ont été faites sur la sécurité. Et puis, on parlera d'Éric Zemmour. Où est-ce qu'il en est entré en campagne assez prochaine, d'après nos informations. À tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
Dans Punchline avec Bruno Jeudy, Louis Hausselter, Françoise Laborde, il y a eu beaucoup de propositions sur la sécurité hier soir à Louis Hausselter qui parlait des peines territorialisées, Valérie Pécresse. Il y a un vrai enjeu évidemment sur la sécurité pour la droite et c'est pour ça qu'ils massent toutes leurs propositions sur ce thème-là.
Oui, il y a
ça. Porteur puis, pour eux.
Bah, quelque part, le vainqueur culturel des débats LR, c'est quand même Éric Zemmour. C'est-à-dire que spontanément, les candidats LR vont sur ces thèmes, pas forcément sur ces propositions, mais vont sur ces thèmes et se gardent de l'attaquer trop frontalement à quelques nuances près. Donc, quelque part, il a dicté un agenda idéologique à la droite, ce qui était son but, à ce niveau-là, c'est réussi. Moi, je ne sais pas si la droite dite de gouvernement sort tout à fait renforcée de cet exercice de surenchère. Je comprends pourquoi ils font ça. Je comprends que ça plaise aux adhérents. Je vois aussi que certaines propositions sont un peu bûchées techniquement. Hein. Valérie Pécresse n'a pas sorti hier, par exemple, la proposition de peine différenciée. Mais le problème, c'est que il n'y a pas vraiment de ligne qui se distingue parmi les candidats. Certes, Ciotti est le plus zémourien d'entre eux et Juvin est peut-être le moins zémourien. Mais il n'y a pas un modéré. C'est plus vraiment l'UMP. Quoi. Ce sont des lignes qui sont beaucoup moins diverses.
Ils parlent à leurs adhérents. Là. Ils parlent
complètement à leurs adhérents. Donc tout ça est tout à fait normal. Mais ils risquent de connaître le même problème qu'avaient les écolos, par exemple, quand ils faisaient ce genre d'exercice. C'est-à-dire que, du coup, ça vous porte de plus en plus vers la ligne des adhérents et de moins en moins vers la ligne qui peut vous rassembler lorsque vous faites un second tour de présidentielle. Quand c'était Fillon, Juppé, Sarkozy, il y a 5 ans, là, vous aviez 4 millions de personnes qui votaient. Donc, quelque part, il y avait un corps plus large. Et donc, ça ressemblait plus à l'électorat général. Là, parler à des adhérents, c'est pas du tout pareil que parler à l'ensemble des Français. Et j'ai peur que cette surenchère, ça crée un précédent où ensuite, on leur demande des comptes sur des propositions qu'ils auront faites parce qu'il fallait aller séduire l'adhérent qui vient à tous les meetings, qui n'est pas le Français moyen, pardon.
Françoise Laborde.
Non, mais c'est la primaire du PS qui a fait sortir Hamon.
Exactement.
Alors que François était absolument le candidat que personne n'attendait.
Ils sont guettés par le même syndrome.
Absolument. La primaire des Verts a fait sortir Jadot.
Oui,
mais contrairement c'est sans doute à ce que tout le monde disait, il a gagné. De justesse,
mais est-ce qu'il peut gagner une présidentielle?
En tous les cas, il fera certainement un meilleur score
que
n'aurait fait Sandrine Rousseau.
Ça, c'est sûr.
Et il peut viser un score à deux chiffres, contrairement à Sandrine
Rousseau. Alors, revenons au LR, si vous voulez bien, la sécurité.
Moi, je crois, contrairement à Louis, que d'abord, les candidats ne se trompent pas de corps électoral. Laurence, vous étiez bien placé pour le voir hier soir. Et il s'adresse, effectivement, c'est un exercice difficile pour les débats télé, parce qu'il faut à la fois s'adresser aux Français qui regardent, aux Français, aux sympathisants de droite, mais les sympathisants de droite ne votent pas. Ce sont les adhérents qui votent. Donc, ils ont toujours un discours à deux niveaux. C'est-à-dire que vous avez effectivement Xavier Bertrand qui peut parler de pouvoir d'achat, mais on sait que cette question dans une élection qui concerne les adhérents, c'est pas la question fondamentale. Donc, vous êtes ramené sur ce qui intéresse le plus les adhérents. Qui sont les adhérents des Républicains aujourd'hui? Ce sont ceux, les 80 000 de départ, ce sont ceux qui ne sont pas partis chez Marine Le Pen et qui n'ont pas été séduits par Emmanuel Macron. Ils sont restés. Parce que d'abord, ils n'aiment pas Emmanuel Macron. Deux, ils n'ont pas envie d'aller chez Le Pen. Et trois, ils pensent que la droite doit revenir à droite. De ce point de vue-là, l'opération Zemmour ramène les candidats à droite. Et si la droite revient à droite, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être ce qui leur a manqué ces dernières années. Ça donnera peut-être un candidat qui, aux yeux des adhérents, sera un candidat plus crédible. Donc je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise affaire, même si je suis d'accord avec vous que peut-être que ça les droitise beaucoup. Mais je n'ai pas eu l'impression que la société soit beaucoup gauchisée ces dernières années. Il suffit d'entendre Emmanuel Macron pour se dire que, tiens, Emmanuel Macron, il enfourche quand même beaucoup des thèmes entendus dans les débats des Républicains. Absolument. Donc moi, je suis un peu moins dubitatif que vous. Je me dis que c'est peut-être aussi la société aujourd'hui. Si, franchement, on n'a peut-être pas envie de l'entendre, mais le thème de l'immigration est un thème que les Français ont... peut-être qu'ils n'ont pas conscience que ce thème est aussi important. Mais voilà, ça compte. Ça fait partie de... Je suis allé samedi, pour le coup, c'était les cadres des Républicains qui étaient là. Je peux vous dire que les cadres des Républicains, ils ont beaucoup applaudi Xavier Bertrand, ils ont beaucoup applaudi Valérie Pécresse sur le thème de l'immigration. Hein.
Alors, Françoise Laborde ?
Non, je suis absolument d'accord. Je pense que et sur l'immigration et sur la sécurité, c'est un thème aujourd'hui qui, en effet, intéresse les Français. En tout cas, tous ceux qui sont sympathisants de la droite et une bonne partie, y compris des gens qui ont pu voter à gauche avant. Et on évoquait en début d'émission ce qui se passe en Guadeloupe. Mais imaginez qu'en Guadeloupe, il y a un incident quelconque avec, comme c'était passé il y a quelques années, hélas, le décès de quelqu'un. La question de la sécurité va la revenir au cœur des débats. Et on sait très bien que sur ce thème, depuis des années et des années, on n'arrive pas à trouver la solution. On va toujours revenir sur le manque de prisons, la surpopulation, l'état scandaleux des prisons en France. Personne n'a le courage de construire des prisons parce que c'est pas populaire, parce que c'est pas bien, ça n'est pas convenable, donc on préfère laisser les gens dans des situations qui sont absolument innommables. Comme les situations sont innommables, la prison c'est la pire des sanctions, où tout le monde tombe dans une délinquance encore pire quand on est en prison. Alors du coup on dit on va pas mettre les gens en prison parce que c'est pire que pas les mettre. Donc c'est une situation qui finit par être complètement absurde. Et je pense que oui, ce serait intéressant qu'à l'occasion d'une élection présidentielle, on remette un peu à plat l'ensemble du dispositif, mais qu'on ne soit pas uniquement sur des mesures de sécuritaire, ou qu'on ne soit pas uniquement sur la façon dont on doit appliquer les peines de prison, mais qu'on réfléchisse.
Alors, un tout petit mot de Éric Zemmour-Bruno, je dis, où en est-il? On a parlé d'il y a un faux plat. Ouais. Là, il y a une descente dans les sondages.
Oui, il y a un faux plat qui maintenant commence à ressembler peut-être... une mauvaise pente, ou en tous les cas une pente descendante pour lui. Sa virée à Londres a tourné au chemin de croix. Dans les sondages, c'est pas terrible. L'ambiance autour de lui n'a pas l'air d'être extrêmement, on va dire, tranquille et zen. Il y a peut-être un peu de surchauffe chez Éric Zemmour, qui lui-même fait des prestations médiatiques quand même moins tranchantes qu'il y a quelques semaines, hein, où on avait l'impression qu'il marchait sur l'eau. Et plus on s'approche du moment où il va se lancer, sans doute entre le 2 et le 5 décembre, plus on avance vers ce moment, plus on sent un peu de la fébrilité maintenant dans le camp,
dans le camp 2,
Zemmour, même si, il faut le redire, il reste haut dans les sondages, et les candidats, les Républicains, aimeraient peut-être être à sa place plutôt que derrière. Mais encore une fois, si le candidat républicain est bien élu, qui sort bien, qu'il y en a un qui s'en sort bien, bah peut-être que les cartes sont rebattues en décembre.
Donc le 2, pourquoi vous pensez que ça peut être le 2?
Alors le 2, tout est symbolique avec Éric Zemmour. Bah, évidemment, c'est à la fois l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz et le sacre de Napoléon.
Et il y a le coup d'État de Napoléon III, enfin de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Bon, ça, c'est sans doute pas ce à quoi il fait référence.
Il y a plein de dates symboliques.
Le
5 décembre, c'est aussi le 45e anniversaire de la fondation du RPR.
D'accord. Et puis surtout, ça percute bien la primaire des LR. Ça pour le coup, là, c'est le missile.
De toute façon, il fallait que ça cogne. Le but, que ce soit le 2 ou un autre jour, c'est-à-dire pas longtemps avant le congrès LR.
Encadrer la fête. Encadrer les LR.
Ambiancer un peu.
Étouffer les LR.
Le vote des adhérents LR. Et à ce compte-là, bien sûr, de toute façon, c'est ce qu'il essaie de faire depuis le début. Et comme je le disais, certes, là, il patine dans les sondages, il y a des problèmes d'organisation. Et pour les parrainages aussi, les 500 parrainages, il n'y est pas du tout. Mais il a au moins réussi à aiguillonner quelque peu les débats qu'avait la droite LR.
Vous doutez qu'il ait ses parrainages ou pas ?
Moi, je pense que s'il reste un candidat qui est au-dessus de 15% dans les sondages, finit par avoir ses signatures. On a rarement vu une situation où il ne l'aurait pas. La différence cette année, c'est qu'il
ne les avait pas, ce serait vraiment
ce serait un vrai problème. Après, cette année, ils sont quand même beaucoup à les chercher, peut-être un peu plus que les autres années, sur ce créneau-là notamment. Et donc, forcément, entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Asselineau et quelques autres, oui, ça va pas être facile. Et les maires, ils ont l'air de faire vraiment la gueule cette année parce qu'ils sont harcelés comme jamais. Ouais. Hein. Et pas seulement sur le côté droit, mais aussi.
Et puis surtout qu'il y a toujours cette fameuse loi Sapin qui les oblige à dire pour qui ils donnent leur.
La liste est publiée, c'est ça.
Leur parrainage. Donc ça, c'est quand même
Tous les parrainages sont publiés.
Tous les parrainages sont publiés. Donc c'est quand même un sérieux handicap pour ceux qui n'osent pas y aller sans avoir le feu vert du parti. Alors savoir quel parti va donner le feu vert.
Et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ont parfois aussi des difficultés à réunir. En tout cas, ils le disent. Ils l'ont beaucoup dit lors des campagnes précédentes. Oui. Ils avaient du mal.
On n'en a pas dit un mot quand même, Laurence, mais je trouve que ce qui s'est passé avec Jean-Christophe Lagarde, ce qu'il a dit hier, c'est indigne.
Si Charles Pasqua était là, il tirait une balle dans la tête de Zemmour.
Quand je l'ai entendu élu hier soir en me rebranchant un peu, je suis même étonné qu'il n'y ait pas eu plus d'indignation par rapport à ce qui a été dit.
Surtout de la part de Lagarde, franchement. Je veux dire, c'est le dernier qui peut donner des leçons sur ce chapitre. On peut bien croire qu'il est centriste, mais quand on voit ce qu'il fait dans sa ville, honnêtement, en termes de clientélisme, c'est quand même le roi du pétrole, si je peux dire sans jeu de mots.
Ça s'appelle être rhabillé pour l'hiver. Ah oui, merci à tous les trois d'avoir participé à Punchline. Nouya Ossalter, Françoise Laborde et Bruno Genier. Merci à vous de votre fidélité, chers auditeurs. Dans un instant, Mouloud Achour pour Verve Underground. Et à 20h, les infos avec Alex Lemaire. Bonne soirée à vous.